genre Bataille, qui a intitulé « Savoir et affect pour une économie du non-savoir » sous la direction de Terry Cochrane au département, qui s'appelait à l'époque « De littérature comparée », et puis ce mémoire a été refondu donc, dans un article publié sous le titre « Figuration et représentable à propos d'une économie du non-savoir dans les cahiers Bataille » en 2011. Ensuite, il a fait sa thèse à l'Université Western University, donc ça, c'est à Kingston.
Non, c'est à London.
À chaque fois que je dis Kingston, c'est London. Ça ne me rate pas dans la tête.
C'est Queens.
Queens, c'est ça, c'est vrai. Sade au bûcher, lire, dire et penser la transgression à la lumière. On en a découvert. Oh oui, si je le mets tantôt, on verra. Si lire, dire et penser la transgression à la lumière des supplices. Et la publication qu'il va en tirer va paraître bientôt. Et ça s'intitule « Lire Sade à la lumière de sa réception », une historiographie critique des usages littéraires de transgression 18e au 21e siècle chez Hermann, donc en 2017. Et puis, il a aussi publié un volume intitulé « Ouverture du cadavre de Sade ». La préface est de lui, la postface est de Robert Richard. Donc, ça porte à la fois, il y a un texte de Sade, mais il y a aussi de la musique du Tottenbaum-Träger. Et finalement, son projet de postdoc qui fait ici, qui termine en fait ici, sous ma supervision, mais c'est pour ça qu'on a fait cette journée-là ensemble, s'intitule « Du blasphème en politique, l'assomption de la violence fondatrice chez Georges Bataille et Hubert Aquin ». Et donc, sur ce, je lui cède la parole pour la communication de cet après-midi.
Merci, Jean. Bien. Dans les structures élémentaires de la parenté, Claude Lévi-Strauss fait de l'interdit de l'inceste le lieu de naissance de la culture. Au début de cet ouvrage classique de 1949, il écrit « La prohibition de l'inceste constitue la démarche fondamentale grâce à laquelle, par laquelle, mais surtout en laquelle, s'accomplit le passage de la nature à la culture. » Je conjuguerai d'emblée ce caractère fondateur de la prohibition de l'inceste à la conception freudienne du refoulement originaire. De Freud à Lévi-Strauss, l'inceste apparaît comme l'objet fondamental du refoulement compris comme condition de la civilisation. Lévi-Strauss ajoute que peu de prescriptions sociales ont préservé, dans une semblable mesure, au sein même de notre société, l'auréole de terreur respectueuse qui s'attache aux choses sacrées. Je propose aujourd'hui de m'attarder d'un point de vue littéraire à ce rapport qu'entretiennent culture, inceste et sacré. Afin d'introduire la présence de cette jonction dans les récits de Georges Bataille et d'Hubert Aquin, je voudrais donner un aperçu de cet enjeu chez Sade, pour qui l'inceste se présente comme une transgression privilégiée, dont le sens coïncide avec la volonté d'un retour à l'état de nature. Dans son idée sur les romans, qui figure en préface des Crimes de l'amour, ce recueil de 1800, Sade figure sous les traits de l'inceste la nécessité où il place l'écrivain de fiction. Je cite, « Le romancier est l'homme de la nature, elle l'a créé pour être son peintre. S'il ne devient pas l'amant de sa mère dès que celle-ci l'a mis au monde, qu'il n'écrive jamais, nous le lirons point. Nous ne le lirons point. » Cette métaphore qui fait de la nature une mère à laquelle le romancier doit s'unir sollicite bien sûr l'image de mère nature. Mais, par-delà la représentation anthropomorphique de la nature, Sade cible l'inceste compris comme prohibition fondamentale que le romancier doit transgresser par la pensée ou par l'écriture. Car c'est bel et bien avec sa plume que l'écrivain s'unit à mère nature, à cette nature qui, chez Sade, présente la mort et la destruction comme la condition de possibilité de la vie. Les récits de Sade figurent ce retour à l'état de nature par la voie du libertinage, entendu comme une entreprise de destruction des valeurs culturelles et politiques inhérentes au refoulement de la pulsion sexuelle. L'écriture de Sade met en scène une pratique qui ramène la pulsion sexuelle à un état de violence originaire, où l'énergie libidinale brute surgit comme ce que la civilisation doit neutraliser afin de se constituer. L'interdit coïncide chez Sade avec la consistance de la culture des hommes, sauf que, pour Sade, cette culture interdit l'accès à la véritable souveraineté. À l'instar de Rousseau, Sade accuse la culture de détourner l'homme de sa vérité naturelle. Seulement, pour Sade, la connaissance du cœur de l'homme se tend immanquablement vers le mal, vers la transgression des interdits les plus fondamentaux. Si la logique fantasmatique sadienne mobilise la transgression comme le catalysateur de l'excitation sexuelle, c'est que Sade place du côté de la violence illimitée tout ce que l'existence humaine contient de plus sacré. À partir de cet arrière-plan où le caractère fondateur de l'interdit refoule dans un domaine prohibé des éléments hétérogènes que la littérature peut investir, je propose une lecture comparée des représentations de l'inceste qu'on retrouve dans les œuvres de Bataille et d'Aquin. L'intuition qui m'a amené à lire ces deux œuvres en parallèle est celle d'une parenté des gestes de transgression qui, dans les deux cas, me semble entretenir un rapport avec un fantasme de fondation au sens d'une pratique sacrée à travers les membres d'une communauté pourrait venir communiquer. Ce rapport de la culture à un sacré qu'elle refoule aujourd'hui dans les manifestations marginales est mis en cause chez les deux auteurs à travers un érotisme noir soutenu par la valeur mystique de la transgression sexuelle. Je situerai le traitement respectif de l'inceste par Bataille et Aquin pour ensuite chercher à articuler le rapport commun à une jouissance féminine figurée comme expérience de Dieu. C'est sous le terme de la théologie, donc le « a-théologie », que je chercherai enfin à unifier cette surimpression de la jouissance féminine au nom de Dieu. Chez Bataille, la représentation de l'inceste est liée à une scène à caractère autobiographique qui renvoie à la mort de la mère de Bataille, dont Gilles Ernst nous a parlé ce matin. Cette scène-là est fictionnalisée et elle fait retour dans les récits, souvent. La première fois qu'elle est publiée, c'est en 1943. C'est dans le petit ouvrage « Le Petit » qui est publié sous le pseudonyme de Louis Trente. Et c'est une phrase très concise. « Je me suis branlé nu dans la nuit devant le cadavre de ma mère ». Fictionnalisée, on retrouve cette scène dans « Le Bleu du ciel », dès le manuscrit de 1935, mais qui n'est publié pour la première fois qu'en 1957. Hein. Donc, la première fois, c'est sous la forme d'un aveu à Lazare. À un moment donné, j'ai imaginé que j'étais impuissant avec Dirty parce que j'étais nécrophile. Et cet aveu est repris un peu plus tard, mais à Xénie, et à qui il dit « Les pieds nus, je m'avançais dans le couloir en tremblant. Je tremblais de peur et d'excitation devant le cadavre. À bout d'excitation, j'étais en transe. J'enlevai mon pyjama. Je me suis, tu comprends ?» Donc, un aspect moins frontal dans l'énonciation de cette scène, mais qui est néanmoins figuré d'une manière beaucoup plus condensée dans cette scène finale dont Gilles Ernst a parlé ce matin, hein, et qui fait que le rapport sexuel est enfin possible seulement au-dessus des tombes illuminées, hein, lorsque Dirty, son amante, se présente à Tropman, tel un cadavre, en fait. Ce que Gilles Ernst nous montrait déjà ce matin, c'est le rapport entre le cadavre maternel et sa figuration dans l'amante, hein, dans Dirty. Donc le lien, le caractère substitutif de la mère qui circule dans l'œuvre de Bataille sous le visage des différentes femmes. Le déplacement du désir de Tropman du cadavre de sa mère vers le corps livide de Dirty est emblématique d'un mouvement de substitution caractéristique de la circulation du fantasme chez Bataille. Bernard Sicher lit cette logique substitutive structurante du champ fantasmatique bataillien à l'interdit de l'inceste mis en scène dans ma mère. Donc, je cite ici Sicher. L'inceste, noyau du désir masculin, est figuré comme à la fois possible et impossible, proche et rejeté, consommé et barré, témoignant de l'interdit radical porté sur la jouissance de la mère, dans les deux sens de ce deux, donc jouir de la mère et la mère jouissante. Tous les autres objets peuvent être dès lors considérés comme des objets substitutifs de ce premier objet impossible et dérobé, l'équivalent déplacé, comme dirait Freud. Sicher considère ainsi la jouissance maternelle comme le nœud fantasmatique de l'écriture bataillienne. Omniprésente, la figure de la mère demeurait cependant intouchable. Bon, c'est possible de contester que tous les objets chez Bataille procèdent de cette logique fantasmatique-là, mais néanmoins, il faut reconnaître l'aspect insistant du lien incestueux mère-fils, hein, qui semble structurer une bonne partie de l'œuvre. C'est seulement dans le récit « Ma mère », par contre, que Bataille fait entrer une mère vivante et un fils dans une tension incestueuse, donc assez tard. Hein, ce récit-là que Bataille rédige autour de 1955, mais qu'il n'achèvera pas. « Ma mère » fait partie du projet Divinus Deus, dont Madame Eduarda est préalablement publiée en 1941. Donc, Madame Eduarda était censée être le premier volet, « Ma mère » le deuxième, et le troisième était un récit qui est aussi inachevé, soit Charlotte d'Ingerville. Bataille n'a pas réussi à finir ce dernier récit, ce qui a entraîné l'abandon du projet au complet, donc de ce triptyque-là, qui devait contenir ces trois textes-là. Cependant, ma mère éclaire, éclaire grandement l'expérience batarienne de l'inceste. Hein. Selon la lecture de Sichère, c'est même ce texte-là qui donne la lecture, la clé de la logique fantasmatique des récits de bataille. Donc, le lecteur de ma mère retrouve donc Pierre Angélique, le narrateur de Madame Edouarda, qui raconte des événements de son adolescence. Le jeune homme pieux, Pierre, a 17 ans lorsque son père meurt. C'est donc l'âge que Bataille avait aussi au moment de sa crise religieuse, dont Gilles Ernst a parlé aussi ce matin. La mort du père est l'occasion que prend la mère pour lui révéler la vérité. Alors que Pierre détestait son père alcoolique et croyait sa mère sainte, Hélène lui apprend qu'elle-même était encore plus débauchée que son père. Hélène lui révèle par ailleurs qu'il est un enfant du viol. « Quand il m'a trouvé, il m'a violé, mais j'ai mis son visage en sang. Je voulais arracher les yeux, je n'ai pas pu. » Donc aussi au passage, le rapport à la castration, donc à Édipe, qui est très clair ici. Et Pierre de répondre, « Il t'a violé, je ne suis que l'horreur qui en résulte. » Hélène avait 13 ans lorsque le père de Bataille, lorsque le père de Pierre... ils sont toujours bienvenus, n'est-ce pas? Hein? Il faut les interpréter ensuite. Hélène avait 13 ans lorsque le père de Pierre la viola. Comme ils n'étaient pas mariés, c'est la famille qui a forcé l'union trouble du couple. Ces révélations s'inscrivent dans un projet de corruption que la mort du père rend possible. Hein. Chez Bataille, notamment dans Le Bleu du ciel, le père mort est une figure au moins aussi insistante que celle du cadavre maternel. En dialogue avec l'Édipe, la mort du père ne donne pas simplement lieu à l'intériorisation de la loi et à la résolution de l'angoisse de castration. La mort du père engendre aussi le surmoi bataillien comme une instance qui ordonne la réitération de la violence. Gilles Ernst en parle comme du passeur de la transgression. C'était le commandeur, cette instance-là, du surmoi. C'est impératif qui demande à Pierre de ne pas fuir sa mère. Hélène peut ainsi introduire son fils à la débauche, corrompre son cœur, l'entraîner dans le vice et lui enseigner, selon ses propres mots, que le plaisir ne commence qu'au moment où le verre est dans le fruit. Ma mère est ainsi un récit initiatique où le fils apprend comment sa mère conçoit la liaison entre la jouissance et la mort. Dans l'histoire de l'érotisme, Bataille parle du complexe de Phèdre comme d'une connexion de l'horreur et du désir. La lecture de Racine par Bataille fait de Phèdre une femme qui, tombée amoureuse de son beau-fils Hippolyte, vit son amour sous la forme d'un interdit qui ne tarit pas son désir, mais le teinte d'une horreur qui, au contraire, nourrit sa passion. Bataille écrit « C'est ainsi que grandit l'amour de Phèdre en raison même de l'effroi qui naît de la possibilité d'un crime. » Phèdre part ainsi le modèle du principe désirant à la base du personnage d'Hélène. L'inoculation du désir par l'horreur de la mort devient évidente dans une expérience initiatique menée par la même maîtresse d'une mère qui s'offre à son fils comme objet du désir, mais qui ne peut lui donner sa chair que dans la mort. Car assez tôt dans le récit, le lecteur apprend que sa mère se suicidera. Mais si sa note de suicide, « Je voudrais que tu m'aimes jusque dans la mort, mais je ne veux de ton amour que si tu sais que je suis répugnante et que tu m'aimes en le sachant. » Hors cadre du récit, le suicide de la mère suit une scène finale qui, du fait de l'inachèvement du texte, revêt un caractère fortement indécidable. Cette scène est celle qui oscille le plus gravement autour de la réalisation de l'inceste en tant que tel, hein, mais la version que nous avons du texte est une version qui est chargée de ratures. Entre des crochets qui sont de Bataille, que Bataille aurait peut-être éliminé, Bataille écrit « Enfonce ici tes doigts et ce que tout à l'heure tu y plongeras, laisse-moi le tenir dans la main. » Suivant les enjeux génétiques du texte analysé par Gilles Philippe dans l'édition de la Pléiade, il y a lieu de penser que Bataille n'aurait pas conservé ses passages explicites. Hein. Je passe sur les détails génétiques, nous pourrons y revenir s'il y a des questions là-dessus, mais c'est compliqué. Pour ce qui concerne mon propos, l'indécidabilité de cet inceste ne se pose cependant pas comme un enjeu majeur. Comme nous le verrons aussi dans Neige Noire, la logique fantasmatique travaille le texte de Bataille sans que la réalisation de l'acte soit l'élément le plus décisif. Le sens même de la mort de la mère résiste à l'indécidabilité de l'inceste. Que la mère se tue parce qu'elle a couché avec son fils ou qu'elle se tue afin de ne pas céder à la réalisation de cet inceste, ce suicide scelle un même interdit. Hélène meurt d'être allée trop loin dans la corruption qui exigeait qu'elle puisse s'offrir en tant que cadavre au désir de son fils. La scène de profanation du cadavre maternel fait ainsi retour, hein, comme le spectre de l'union du désir et de la mort. C'est pourquoi, à mon avis, Hélène est plus près de Phèdre que de Jocaste, Jocaste étant la mère d'Édipe. Hein. Ce n'est pas la réalisation de l'inceste qui importe ici, mais la manière dont le fantasme de la mère est oblitéré par l'interdit, oblitération qui lui permet justement de circuler en tant que fantasme dans la logique du récit. Initiant son fils au libertinage, Hélène s'introduit dans le désir de Pierre en tant que référence fantasmatique à laquelle les autres femmes du récit viennent se modeler. Matrice, la mère de Pierre l'est au sens de la génitrice de son enfant, mais aussi au sens d'un point fantasmatique qui obsède la fiction et détermine les choix d'objets de Pierre. C'est ainsi que le personnage féminin de Réa reçoit la bénédiction de la mère auprès de son fils pour être auprès de son fils la chère médiatrice de la jouissance maternelle. Gravement congestionné, je regardais ma mère et je lui pris les mains. Discrètement, sous la table, Réa me caressait. Ma mère aussi me regardait comme si les regards griffaient. Très bas, je murmurais, je voudrais ne jamais bouger. Réa se serrait entre nous sur le sofa. Donc, c'est une scène où ma mère dialogue avec Pierre par le regard et où le corps de Réa est entre les deux et Réa le corps qui touche chacun des deux autres corps. Donc, la mère et le fils ne se touchent pas directement, mais il y a un autre corps médiateur entre les deux. Mon corps médiateur, c'est aussi le cas du personnage de Annecy, une autre jeune femme qu'Hélène met entre les mains de son fils. « Je te laisse seule avec Annecy que tu ne connais pas. Je n'ai pu la corrompre et quelques peines que j'y ai prises, c'est une jeune fille que je mets dans ton lit. » Ce passage manifeste encore une fois la logique substitutive que si cher postule entre la mère et les femmes jouissantes des récits de bataille. Bon, il y a d'autres éléments qui permettent de retracer cette logique-là, et c'est là que le lien entre ma mère et Madame Edouardin est intéressant. Ma mère, à la fin du récit, donc Hélène a un loup sur ses yeux, hein, qu'elle permet. Donc, un loup, c'est un masque qui cache le pourtour du visage. Et cet élément-là se retrouve aussi dans Madame Edouarda. Madame Edouarda qui, au sortir du bordel, après la scène que Robert a citée ce matin, donc, non, en fait, avant cette scène-là, pardon. Donc, Madame Edouarda qui sort avec un loup aussi. Donc, le même objet, hein, qui, dans le récit, selon la logique fantasmatique, permet d'identifier Madame Edouarda et la mère. Donc, de faire de Madame Edouarda un substitut de la mère. Mais surtout, ce qui est intéressant dans Madame Edouarda, c'est que Bataille écrit que ce masque-là la fait animal. Donc, c'est un loup aussi, mais au sens métaphorique. Il y a aussi le rapport à l'animal. Hein. Donc, l'inceste fonctionne ici comme un retour à l'état de nature, comme j'ai parlé à propos de Sade plus tôt. C'est un passage de l'homme à l'animal. Cette correspondance entre les masques animaux qui recouvrent le contour des yeux d'Hélène et d'Edouarda éclaire Madame Edouarda de nouveaux jours. J'ai déjà résumé ça. Pardon. Chez Bataille, la tension incestueuse est pour le fils le lieu d'une révélation, d'une ouverture sur l'illimité de la mort. La représentation de l'inceste devient un vecteur d'expérience intérieure. Chez Aquin, l'inceste appelle aussi la mort, mais son expérience n'est plus, comme chez Bataille, ancrée dans une subjectivité masculine. L'inceste n'en jalonne pas moins son œuvre, mais c'est sous une autre forme qu'on la retrouve, et ce, bien qu'elle débouche, comme on le verra, sur une expérience mystique inhérente à la jouissance de la femme. Bon, sous une forme explicite, l'inceste ne se trouve figuré dans l'œuvre d'Aquin que trois fois. Il y a d'abord dans Trou de mémoire, où là c'est explicite, mais c'est le mot, vraiment. Donc, Trou de mémoire ne figure pas l'inceste au sens propre, mais la narration de Pierre-X Magnan met de l'avant un usage symbolique qui sexualise et nécrophilise le rapport à la langue maternelle. Ici, environ au milieu du roman, « Les jeunes filles de bonne famille m'ont obligé à châtier mon langage, à me châtrer, à me priver de mon identité de pauvre Canadien français condamné par deux siècles de délire, à parler mal, sans plaisir, voire même à forniquer incestueusement avec ma langue maternelle, tour à tour fourrant et étant fourré, car la langue majestueuse et maternelle a un statut de langue morte. La bien parler, c'est déjà faire preuve de nécrophilie. » Magnan présente ici le châtiment et la castration comme des conditions de vie collective que son entreprise d'écriture entend faire éclater. en 1968, donc date de la publication de ce roman, dans un Québec dont le nom vient à peine de naître en tant que possibilité d'une nation souveraine, bien parler sa langue maternelle, c'est non seulement forniquer avec sa mère et être fourré par elle, c'est aussi fourré avec une langue morte. En explicitant le rapport entre l'inceste et le repli d'une langue nécrophile sur elle-même, Akin noue d'une manière toute différente la nécrophilie incestueuse que Bataille figure par l'excitation du fils devant le cadavre maternel. Magnan saisit le blasphème lié au désir de la mère à un niveau moins littéral lorsqu'il valorise la nécessité de profaner le corps de la langue maternelle en la faisant blasphémer. Comme chez Sade et Bataille, l'image de la mère est certes ici aussi associée à la langue et à l'écriture, mais chez Akin, ce rapport à la langue renvoie d'emblée au contexte de la collectivité. Bon, il y a une deuxième mention qui est littérale dans l'antiphonaire, sur laquelle je ne m'arrêterai pas très longtemps, mais c'est un inceste père-fille qui aurait eu lieu dans le passé de Christine, la narratrice. Mais cette incidence-là n'est pas développée directement. On retrouve par contre cette structure-là d'un inceste père-fille dans Neige Noire, qui est un cas beaucoup plus riche, beaucoup plus explicite aussi, en ce que l'échéance de l'inceste est là nouée dans l'intrigue. Elle soutient aussi l'unité tragique du texte. C'est aussi l'unité tragique du texte. Si l'inceste n'est clairement révélé au lecteur qu'à la fin du texte, la trame incestueuse n'en est pas moins savamment élaborée. Bon, juste résumer ici les éléments du dispositif textuel auquel cette trame est reliée. Donc, Nicolas est comédien, il joue Fortin Brass dans une adaptation télévisuelle de Hamlet. Après ce tournage, il part en voyage de noces en Norvège avec Sylvie Dubuc, née Lewandowski. Ce que le lecteur n'apprendra que bien plus tard. Avant leur départ, une scène montre Nicolas extorquant à Sylvie un aveu, celui de l'allemand qu'elle a eu. Le texte insiste sur le caractère sacré du nom qui révélerait l'inceste si Sylvie n'avait pas pris le nom de sa mère. Donc Nicolas, qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Sylvie, un nom, ça ne se dit pas. Pourquoi? C'est sacré un nom, ça ne se dit pas. Bon, Sylvie avouera bientôt que son amant se nomme Michel Lewandowski. De son côté, Nicolas a une liaison avec Linda Noblet. Ouais. Liaison, c'est le cas de le dire. C'est l'actrice qui joue Ophélie dans Hamlet. Et il y a une scène qui présente Nicolas en train de ligoter Linda sur un lit. Donc, dans une scène sexuelle ambiguë. Mais on verra que cette scène-là est une forme de répétition. Mais je ne vais pas insister là-dessus parce que Gilles va en parler un peu plus tard. Bon, c'est en quittant la Norvège, Nicolas décide de quitter la carrière d'acteur pour devenir réalisateur. C'est à partir de ce moment-là qu'il entreprend l'écriture d'un scénario de film autobiographique qu'il dit rédiger au fur et à mesure qu'il vit. Bon, à Oslo, Sylvie et Nicolas rencontrent Eva Voss, une amie de Sylvie, qui connaît aussi Michel, le père de Sylvie, mais sans connaître la teneur de leur liaison incestueuse. Bon, ensuite, ils s'en vont Sylvie et Nicolas se rendent au Svalbard, la terre la plus septentrionale de la Norvège, que la narration qualifie d'endroit sacré. C'est là qu'intervient la mort de Sylvie, scène à la fois centrale et point aveugle du récit, car laissée en blanc dans la séquence chronologique du texte. Je la laisserai moi aussi en blanc ici, parce que Gilles viendra insister sur cette scène-là un peu plus tard. Peu auparavant, l'intimité incestueuse entre Sylvie et son père en était révélée. Avant ce coït-là, Sylvie invoque le nom qui ne se dit pas. Donc Sylvie, papa, 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 Sylvie, cela ne peut plus durer, papa, quelqu'un pourrait apprendre la vérité, Nicolas peut-être. Point traumatique du récit, le meurtre de Sylvie par Nicolas s'avère avant tout un élément fondateur de la fiction, car c'est sur ce meurtre que repose l'ouverture du livre, donc la scène finale. C'est aussi cette scène-là qui apprend au lecteur l'inceste, et cette scène-là présente un rituel sacrificiel qui inscrit le récit dans l'imagologie chrétienne. De l'inceste mère-fille bataillien à l'inceste père-fille akinien, une asymétrie caractérise les deux logiques de la transgression à l'œuvre. Si Bataille met en scène le fantasme d'inceste à partir d'une expérience subjective masculine, le regard akinien est en quelque sorte plus structurel. Si les deux œuvres s'inscrivent en filiation avec la tragédie classique, Phèdre pour Bataille et Hamlet pour Akin, une distance sépare ces deux poétiques. Alors que l'expérience intérieure de Pierre Angélique est vécue du point de vue de ce personnage, Neige Noire projette cette expérience du côté du lecteur. Ces écritures se rejoignent néanmoins là où toutes deux lient la représentation de l'inceste à la mort et à la figure de Dieu. Donc, à cet enjeu que je veux maintenant m'attarder, et c'est à partir de la notion de transsubstantiation que je voudrais unifier la liaison entre ces termes. Plus précisément, en articulant le caractère blasphématoire du rapport de ces deux écrivains à la tradition religieuse catholique. Le dogme catholique de la transsubstantiation concerne la consécration du pain et du vin par le prêtre, qui, par le rituel, fait de ces matières la substance même du corps et du sang du Christ. Dans la messe de Georges Bataille, un court texte écrit à l'occasion de l'apparition du roman L'ABC, donc en 1950, Pierre Klosowski soutient que la transgression profanatrice chère à Bataille fonctionne comme une transsubstantiation inversée. Donc, je cite ici Klosowski qui cerne le mystère de la transsubstantiation. Manifeste dans l'abolition des espèces du pain et du vin, la présence réelle du Seigneur n'apparaît elle-même que dans la séparation de son corps et de son sang. C'est sous la figure de sa mort que le Seigneur est réellement présent. Le dogme catholique de la transsubstantiation démontre aussi ainsi comment le sacrifice de la croix, accompli une fois pour toutes, n'en est pas moins présent dans le temps et peut être réitéré en tant que sacrifice actuel. Bon, Bataille et Aquin ne partagent certainement pas le rapport positif à ce dogme-là. Hein? Cependant, le caractère réitérable du sacrifice du Christ les intéresse dans la mesure où il parvient à rendre présent ce qui est absent de la scène de représentation. Leurs écritures y trouvent en quelque sorte un modèle d'une voie d'accès à la figuration de l'irreprésentable. Si la consécration catholique insiste sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, la transsubstantiation inversée cherche à rendre sensible une présence réelle, mais immanente. Cette expérience ne s'ouvre plus sur la transcendance divine, mais sur le désordre sacré de ce que Sade nommait « nature ». Lue à la lumière de la perspective de Lévi-Strauss, à savoir que l'interdit de l'inceste est le lieu de passage entre la nature et la culture, la transsubstantiation inversée devient une transgression des limites de la culture. Le regard qui s'aventure dans l'ouverture ainsi créée entre dans une expérience où l'interdit de l'inceste et le nom de Dieu sont tous deux bafoués d'un même geste. Lorsque l'écriture de Bataille et d'Aquin blasphème, la présence qui devient sensible est celle d'un réel impossible à symboliser, je pointe ici vers Lacan, réel dont l'expérience excède les limites de la culture et auquel le lecteur est confronté comme au frisson de la mort, comme le sens d'une présence qui demeurait muette sans le geste de négation de la fiction. Bon, chez Bataille, la volonté de corrompre les objets du culte catholique est exprimée de manière frontale. On peut penser à l'histoire de l'œil à la fin. Encore une fois, j'anticipe, mais je renvoie à ce que Gilles en dira un peu plus tard. Aussi, l'ABC donne place de choix à la transsubstantiation, à la subversion de la transsubstantiation. Hein. Dans cette scène où des jeunes femmes séduisantes viennent provoquer pendant la messe l'abbé qui feint de s'évanouir au moment où il doit prononcer un Dominus Vobiscum, feintise qui coïncide avec sa conversion à la débauche comme mode d'expérience de la réelle présence. Donc, le prêtre qui doit célébrer l'Eucharistie, qui s'évanouit justement et qui, à partir de là, devient un débauché. Chez Aquin, la transsubstantiation apparaît dès l'invention de la mort. Le mot étant prononcé par le narrateur au moment où il projette son suicide. Donc, c'est tout le rapport à une réincarnation, le fait que le narrateur, comme le disait Gilles Hertz, ne peut pas s'imaginer mort, mais il s'imagine revivre d'une manière ou d'une autre, donc dans le fleuve Saint-Laurent, dans cette mort-là. C'est si explicite que les derniers mots du roman sont « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » au moment où le narrateur conduit sa voiture dans le fleuve. Dans votre article paru cet automne, vous parlez avec Gilles Ernst, parle avec justesse du processus de détournement qui caractérise le traitement aquinien de la transsubstantiation. Effectivement, peut-être que pour Aquin, c'est préférable de parler d'une transsubstantiation détournée, hein, et non pas inversée. Ce détournement est développé plus avant dans Trou de mémoire. Pierre Magnan écrit qu'il est présent d'une présence réelle. Il compare par ailleurs sa conception du crime parfait au sacrifice fondateur du Christ. Pour lui, le crime parfait n'est qu'une des nombreuses modalités du grand mystère de la transsubstantiation. Magnan avance encore que la notion même de crime parfait se superpose dans l'esprit de certains fidèles à la notion du sacrifice de la messe. Donc, il pense surtout à lui-même, je crois, comme fidèle. Donc, fidèle infidèle du Christ. Crime parfait, la transsubstantiation l'est, selon Magnan, dans la mesure où l'Eucharistie fait de l'assassinat de Jésus un sacrifice réitérable qui, à chaque messe, rend le Christ universellement présent. Le détournement qu'opère Magnan intervient à partir du moment où il croit que la réactualisation littérale du crime peut générer la présence dont son peuple est en souffrance. Trou de mémoire insiste sur le moment du crime, de la chair qui doit mourir afin de rendre quelque chose présent par sa négation. C'est ainsi seulement nié par le meurtre que Joanne revient hanter le roman en tant que signifiant du désir de Magnan. Devenue corps mystique, cette femme se transpose pour Magnan vers le corps de sa sœur, Rachel, que Magnan ira violer. Niée par ce viol, Rachel devient porteuse d'un enfant. Incarnée dans le dispositif narratif de Trou de mémoire, le détournement de la transsubstantiation intervient ici à un niveau plus symbolique. Au niveau de ce que Robert Richard, en dialogue avec Guiscarpetta, nommait hein, le sursens du texte d'Aquin. C'est la violence négatrice de Magnan qui engendre la présence de cet enfant à venir, que Rachel décide de garder malgré ses origines troubles. Donc, c'est le désir de la mère et son pouvoir de nomination qui est ici en jeu. Car Rachel décide de faire porter à cet enfant le nom de son père. Si c'est un garçon, il portera le nom de son père. Si c'est une fille, je l'appellerai Joan. Oui, Joan X. Magnan. À la fois réincarnation de Joanne et figure du lecteur qui doit élever cet enfant comme il doit cultiver la lecture de l'œuvre, l'enfant Magnan à venir devient une figure de la violence fondatrice. Dans Neige Noire, une image détournée de la transsubstantiation peut être retracée dans la teneur du lien symbolique qui unit la mort sacrificielle de Sylvie à sa réincarnation jouissante entre Linda et Eva. Car Linda et Eva hein, sont clairement des doubles de Sylvie. Hein. Donc, Linda, d'une part, est au début ligotée par Nicolas, comme une forme de répétition, et Eva, ensuite, en vient remplacer Sylvie dans la vie de Nicolas. Hein. Elle va remplacer Sylvie dans le lit de Nicolas, hein, littéralement. Le châtiment qui vient punir l'inceste, le meurtre de Sylvie inscrit dans la chaîne événementielle un péché qui doit lui aussi être expié. Le corps christique de Sylvie revit ainsi dans la scène finale de Neige Noire. La réincarnation de Sylvie a lieu dans ce rapport sexuel où Eva et Linda viennent se nouer. C'est précisément lorsqu'il est révélé à Eva la teneur de la mort de Sylvie dans le scénario de Nicolas qu'elle retire Linda des griffes de Nicolas, lui qui avait déjà ligoté Linda. Les deux femmes se retrouvent dans l'appartement de Linda afin de faire revivre Sylvie en une sorte de palingénésie sacrilège où l'engendrement de la parole par Dieu est figuré par le jeu de la langue sur le sexe jouissant d'Eva, figure du Christ réincarné. Linda, le Christ s'est réincarné en toi. Jésus, abolis-moi, brûle-moi. Eva, je ne me suis jamais senti aussi proche de Dieu. Linda, appose sa bouche sur sa vulve. Eva a les yeux ouverts et monologue à voix basse. Dieu est tout en moi, mais aussi j'entre en Dieu. J'ai le sentiment de l'habiter. Quand ta langue me darde, tu lèves le voile qui me séparait de la voie lactée. Et maintenant, je frôle le grand silence dans lequel la vie renaît, meurt et renaît à l'échelle cosmique, peuplant ce vide d'un murmure de joie. Je saute à bataille pour citer la parole de Charlotte d'Ingerville, qui est la nièce de la défunte Hélène, et donc la cousine de Pierre-Angélique, et à qui Pierre-Angélique s'unira bientôt sexuellement. Donc Charlotte, « Je suis dans le village à tous ceux qui veulent, et pourtant, le lendemain, je prie dans l'église où je t'ai retrouvé. Souvent, Pierre, il me semble que je vois Dieu. Lorsque tout à l'heure je me suis relevé, j'étais si légère, je crus m'en aller à travers le ciel. J'étais comme les substances impalpables dont est faite la voie lactée. » Bon, je note la commune présence d'une image cosmique de la jouissance, chez Aquin comme chez Bataille, figurée par la voie lactée. La scène finale de Neige Noire surimprime par ailleurs la figure de la Vierge Marie sur la jouissance déjà christique d'Eva. Hein? Donc, une forme de condensation de tous ces moments-là du rituel catholique. « Tu es vierge et resteras toujours vierge. Le Verbe est entré en elle. La jouissance d'Eva reste inachevée, car Eva se meurt autour de l'équateur céleste, non pas que le plaisir qu'elle reçoit de sa sœur ne soit pas saisissant, mais parce qu'au-delà de la passion qui la secoue, Eva embrasse Dieu lui-même, en même temps qu'elle est embrassée par Linda, et se consume dans l'amour de l'amour. Cette union profanatrice fait d'Eva la sœur de Linda, réintroduisant ainsi une jouissance incestueuse au moment où l'infini de la voûte céleste s'ouvre au lecteur. Entre bataille et Aquin, tout se passe comme si la forme authentique du désir devait se décliner sous le mode d'un inceste dont la consommation culmine dans l'expérience de Dieu, dans l'expérience d'un Dieu distinct du Dieu catholique. Comme dit Nicolas, la parole engendre, elle ne fait pas corner ou accompagner l'existence. J'ajouterai que chez Aquin, cette parole engendre à partir de la recherche d'un lieu de mort, d'un tombeau où la fusion cosmique cohabite paradoxalement avec le narcissisme, comme en témoigne le couple miroir Eva-Linda, dont la substance féminine est unique, c'est celle de Sylvie, et à travers elle, celle du Christ. La pénétration d'Eva par le Verbe évoque par ailleurs l'Annonciation et l'Assomption de la Vierge. Comme Marie, Eva demeure vierge, même pénétrée par le Verbe. Elle monte au ciel, élevée par la jouissance interfécondante que lui procure le baiser de Linda. Selon les mots de Neige Noire, ce baiser fait accéder Eva à une palingénésie qui recoupe le déroulement de la scène céleste. Scène au sens, C-E-N-E, hein, au sens de la scène du repas final. Ainsi incarnée dans la scène finale de Neige Noire, la jouissance féminine jaillit comme point de révélation commun entre ma mère et Neige Noire. Je veux brièvement revenir une dernière fois sur la fiction de bataille afin de voir comment cette incarnation aquinienne de Dieu dans la jouissance féminine peut communiquer avec l'expérience athéologique de Pierre Angélique. Ma mère présente un intérêt singulier dans l'œuvre de bataille car, contrairement à la majorité des récits de bataille, c'est le narrateur qui constitue l'instance de pureté qui est appelé à être profané. Souvent, les narrateurs masculins bataillens sont ceux qui profanent. Hein, comme Troppmann, c'est lui qui fait violence aux femmes autour de lui. Dans le cas de ma mère, c'est plutôt la mère qui fait office de sacrificatrice. C'est elle qui montre au fils la voie de la souillure. Ce texte est le récit d'une mère qui semble avoir donné à dessein une éducation religieuse à son fils afin de donner une emprise à la corruption et d'ainsi jouir de l'abîme où elle le pousse après la mort du père. C'est en ce sens que la jouissance de la mère ordonne la scène de la représentation. L'expérience athéologique de Pierre est, comme dans Neige Noire, figurée à travers la jouissance féminine. L'expérience athéologique, au sens de la somme athéologique rédigée par Bataille dans les années 40, où s'insère son livre sur Nietzsche, dont Philippot nous parlera bientôt, tout de suite après, par-delà le détournement de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, hein, l'autre Aquin, le caractère privatif du « a » vient marquer le fait que Bataille pense Dieu comme une absence, absence qu'il s'agit de rendre présent par la profanation. Cette absence s'ouvre sur le vide libéré par la mort de Dieu, sur la dissolution de cette limite culturelle et sacrée qui venait recouvrir l'infini de la mort, la violence illimitée de la nature, la possibilité de l'inceste, bref, la nature sadienne, où la vie est pétrie par la mort. Dans la solitude où j'entrai, les mesures de ce monde, si elles subsistent, c'est pour maintenir un sentiment vertigineux de démesure. Cette solitude, c'est Dieu. C'est Pierre Angélique qui parle. Penser la vacance de Dieu comme solitude à travers l'expérience de la chair devient l'enjeu de la crise religieuse où Hélène entraîne son fils. Car ce renversement de la piété chaste par l'extase charnelle est bel et bien le fondement de la crise religieuse de Pierre. Ainsi, Pierre devant Annecy, comme je l'ai montré plus tôt, qui peut être lu comme un substitut de la mère. Les fesses de Annecy n'avaient pas cessé de signifier le fol excès de jouissance qui était dans leur indécence un défi au Dieu chaste que j'avais aimé. Je posais cette jouissance à cette joie en Dieu que j'avais connue, mais je me dis dans ma nausée que la jouissance charnelle était sainte. Dans l'extase où Annecy et moi nous étions perdus, d'abord nos ventres nus participaient, puis un amour illimité qui n'avait eu de cesse que nos ventres se dénudassent, qu'ils se libérassent de limites. Cette abolition des limites qui nous laissait l'un et l'autre perdus me paraissait plus profonde que les sermons du prêtre à la chapelle de l'église me paraissaient plus saintes. J'y voyais la mesure d'un Dieu où jamais je ne vis que l'illimité, la démesure, la démence de l'amour. Ainsi, dans ma nausée, j'embrassais les fesses de Hansi, ne me sachant pas moins rejeté dans la joie qu'elle m'avait donnée que si la malédiction divine l'avait fait. Mais j'eus la force de me dire « J'aime les fesses de Hansi, j'aime aussi que Dieu les maudisse. » Je ris dans ma nausée de cette malédiction qui les divinise si profondément. Le conflit intérieur de Pierre-Angélique est celui de la divinité charnelle de la mère corrompue qui vient se loger dans l'espace symbolique et affectif que Dieu occupait dans l'esprit du Fils. C'est en ce sens que l'expérience athéologique de Pierre est déterminée par une confrontation à la prohibition de l'inceste, comprise comme limite civilisatrice fondamentale. Si cette transgression coïncide avec la révélation d'un Dieu d'horreur, c'est que le Dieu chrétien s'érigeait au lieu même de la limite entre nature et culture. C'est en ce sens qu'à propos de la théologie de bataille, Denis Ollier note que Dieu est le nom profane du sacré. Du haut de ses implications sociales, culturelles et politiques, le Dieu chrétien devient ainsi une figure du refoulement originaire. Or, c'est justement ce refoulé qui fait retour dans l'expérience de la transgression sacrée. La consommation de l'inceste est ce passage de l'homme à l'animal. C'est la traversée du savoir vers le non-savoir, l'ouverture de la possibilité de l'inceste comme trouée de la mer, pour reprendre une formule de Robert Richard. Mais l'inceste, c'est aussi l'impossible, car consommé, l'inceste ordonne la mort de la mère, mort qui rétablit ainsi l'interdit. Bon, je voudrais conclure ma lecture conjointe de Ma mère et de Neige Noire en soulignant un enjeu commun, un nouvel enjeu commun à ces deux textes. Je résumerai cet enjeu dans l'impératif du contact avec le sacré, impératif qu'à mon avis Bataille et Aquin incarnent tous deux. Cet impératif me fait penser à la conception de la culture authentique formulée par Artaud dans la préface du Théâtre et son double. Entre Artaud, Bataille et Aquin, je lis l'exigence d'une culture qui veut se tenir à la lisière de la violence, qui veut la sublimer afin de toucher au sentiment du sacré, afin à travers lesquels les êtres peuvent communiquer, au sens de Bataille. Cette culture du sacré ne peut se dissocier complètement d'un rapport au religieux, mais Bataille et Aquin mettent de l'avant une pratique laïque du sacré qui vient s'opposer à la conception utilitariste d'une culture aujourd'hui de plus en plus limitée par l'impératif de la rentabilité économique. Ma fréquentation de Bataille et d'Aquin entretient en moi l'intuition que la culture n'est rien ou qu'elle est morte si elle ne maintient pas vivante en elle, sous des formes symbolisées ou sublimées, la violence fondatrice mais proscrite qui motive le désir unificateur du lien social. Je voudrais terminer en retrouvant ce désir du lien social dans ce court passage de Neige Noire, le passage où se glisse la seule allusion politique directe du texte au Québec. Voilà. Jusqu'à présent dans le film, on peut dire que le Québec est en creux. Son éclipse récurrente fait penser à l'absence d'une présence, à un mystère inachevé. Il est possible que l'absence de cette présence, que ce mystère inachevé ait quelque chose à voir avec la crise du sacré où le monde occidental est plongé depuis la mort de Dieu. Comment certains textes de Bataille et d'Aquin font reposer l'invocation d'une présence réelle sur la profanation de l'interdit de l'inceste, c'est ce que je me suis aujourd'hui efforcé d'illustrer. Mais le temps me manque pour aborder la valeur politique du sursens inhérent à l'interdit de l'inceste, interdit qui intervient lorsqu'Hélène et Sylvie meurent. Merci.
Merci Dominique. Donc, on avait parlé d'affinité élective ce matin entre les deux œuvres. Je pense que tu as vraiment créé une chambre d'écho entre les deux textes. Et pour reprendre aussi une métaphore surréaliste des vases communicants. Ça va au-delà, je pense, que même des affinités électives. Alors, même que quelqu'un ait autant lu Bataille ou non, à la limite, c'est peu important, c'est de voir que les deux œuvres tissent tout ce réseau de correspondance. Donc, là-dessus, on va prendre quelques questions et commentaires. Après cette très riche et un peu étourdissante
oui.
communication.
Le père dans Divinus Deus aussi. Ah, parce que l'inceste passe par l'effacement du père.
Mais la mort du
et
père.
J'ai remarqué que quand il découvre les photos obscènes où le père est travesti avec des parts, il est féminisé, le père. Mm-hmm. Hein, c'est étonnant cette scène.
Oui, en effet, mais il y a l'aspect que la mort du père ordonne, en un sens, l'entrée de Pierre dans la débauche, mais il y a aussi ce brouillage-là qui intervient chez Bataille, non seulement du père qui est féminisé, mais la mère qui est masculinisée en un sens parce qu'elle incarne un nouveau surmoi. Donc, il y a ces brouillages-là qui vont dans les deux sens chez Bataille. C'est le cas aussi chez Akin. C'est ce que Robert Richard montre très bien dans le corps logique de la fiction, qu'il a dû devenir femme partout. Hein, le sang des menstrues qui oblitère toute la scène de la représentation, c'est un autre exemple de ça. Donc, les instances qui, chez Freud, sont très claires, hein, très sexualisées, très clivées. Hein, très...
Le mâle passif aussi, des scènes de fellation chez Akin. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Hein? Mais élaboré là-bas.
Il a
en quel sens vous suggérez ces scènes de fellation là?
Oui, non, mais bon, c'est aussi une image du mâle virilisé. En fait, c'est la femme qui mène la danse dans la fellation. Mm-hmm. C'est quand même. Il y a certainement des. Il y a vraiment des points communs. Enfin, bon, c'est une platitude, mais...
Non, mais il y a cette scène-là aussi où...
L'intérêt pour le saphisme aussi, enfin, c'est... Mm. Hein, c'est quand même... Bon, on trouve chez Bataille aussi.
C'est d'abord un épisode.
Ramzi et Réa.
Ben oui. Mais il y a aussi cette scène-là où Eva, justement, une scène de torsionnaire, vraiment, où Eva tient le sexe de Nicolas et lui tire un aveu, justement. Et puis, une fois qu'elle sait...
La scène avec le pendentif. Là,
oui, aussi.
La mutilation, ça, c'est étonnant, ça. Mm-hmm. La blessure qu'elle lui inflige, quand même.
Mm-hmm. Oui, là, au moment où il veut. En fait, tout ça est relié justement à la fellation, parce que au moment où il est blessé au pénis, c'est au moment où il tente de lui imposer... le fait d'éjaculer dans sa bouche, hein, ce qui répète la scène finale de leur rencontre initiale. Hein, là où ils se rencontrent dans la voiture, c'est une scène de fellation. Ben, oui, c'est affreux, mais c'est comme ça qu'ils se rencontrent, Sylvie Nicolas. Hein.
C'est beaucoup plus violent chez Bataille.
Que chez Bataille? Ben,
ah oui.
Oui, ben, bien sûr, oui. C'est,
il disait ça. Bien sûr, avec ce qu'il y a derrière, la castration, c'est ça, en fait. Mm-hmm. Les virilises. Et Eva, la première femme aussi.
Bah oui, mais ça aussi.
Ouais. Je suis souvent interrogé là-dessus.
Même dans le prochain épisode, les sophilies dans leur ongle, pendant que se déroule sa chevelure manuscrite. Donc ça commence déjà là.
Bah, Linda est aussi Ophélie, parce qu'elle joue Ophélie dans...
C'est un très beau genou, ça. Ou Pénélope sur le clavier. C'est bien, ça.
Mais la blessure qui est infligée à Nicolas, c'est une blessure qui permet à Nicolas de faire couler le sang cataménial, le sang de Ménorée. Hein. Et ça, ça revient même dans tous les mémoires aussi. Ouais. Mais moi, je soulignerais que chez Akin, il n'y a pas de
masculinisation
oui, des femmes.
Ouais.
Parce que tout ce beau monde, dans tous les romans d'Akin, s'en vont vers une féminisation.
Mm-hmm. Oui, oui.
Le devenir femme de Deleuze, c'est déjà Akin qui était passé par là. Mm-hmm.
Alors que tantôt de montrer chez Bataille le devenir animal.
Oui,
le devenir animal, c'est très bien aussi. Très deleuzien aussi, d'ailleurs.
Oui.
Vous avez une question, je pense, aussi, non?
C'était une question, je voulais te demander une précision. En fait, sur la quand tu as mobilisé Artaud, tu as fait la question de la communication qui se passerait dans une sphère de transgression, en fait, ou de sublimation. Comment peut-être que c'est clair pour tout le monde, ce n'est pas pour moi, la communication au sens bataillant, qu'est-ce que ça veut dire? Puis peut-être que ça, tu sais, je veux dire, les termes de cette réponse-là pourraient peut-être intervenir dans comment on peut penser la manière dont l'œuvre d'Akin et l'œuvre de Bataille communiquent.
Je pense qu'elle communique justement dans cette ouverture du sacré, mais au sens de la communication chez Bataille, c'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de difficultés parce que c'est souvent très proche de communion.
Oui.
En fait, c'est très proche de communion, mais Bataille ne veut évidemment pas utiliser ce terme de communion-là parce que c'est trop chrétien.
En langage religieux, on excommunie, mais qu'est-ce qu'on appelle c'est l'excommunication, non pas l'excommunion. Donc, Bataille était très au courant de ça, le rapport très près entre communion et communication.
Donc, c'est un sens de communication des êtres, là où les êtres communiquent lorsqu'ils sont indifférenciés, hein, lorsqu'ils communiquent hors de leur individualité, comme dans l'érotisme où deux corps se fondent ensemble, c'est Andy et Pierre qui communiquent par leur corps parce qu'ils sont hors de leur individualité propre.
Oui.
justement, je me demandais, il y a cette scène dans Tifonaire aussi, entre Leonico et Renata. Mm-hmm. Et là, du coup, je me demandais si on pouvait appliquer le concept que tu as utilisé de transsubstantiation détournée ou lorsque Leonico est en train de faire la lecture du Cantique des Cantiques. Et là, du coup, il alterne la lecture avec le commentaire d'Origène. Et là, du coup, à partir de là, ben, en fait, ça déclenche un rapport sexuel. Et c'est comme si les archétypes de l'aimé et de la mort, en fait, qui sont évoqués dans le Cantique des Cantiques, s'incarnaient, justement. Et là, il y a Aquin qui dit que, ben, en fait, il me semble, aujourd'hui, exactement, ça c'est une citation approximative, mais ils entrent en contact ou en communication avec toute la communauté des amants et des lecteurs.
L'arborescence.
C'est certain, oui, je crois que si, mais j'aurais la difficulté comme ça, sur le tas, à choisir quelle instance du rituel catholique est subvertie ou détournée à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose comme l'entrée du verbe aussi, à ce moment-là. La question de la transsubstantiation intervient vraiment à travers la mendication de Sylvie dans Neige Noire. J'ai sauté ce petit passage-là, mais l'Eucharistie intervient vraiment dans Neige Noire au moment où Sylvie est mangée vraiment, donc le corps du Christ qui est mangé. Ce serait peut-être plus près de l'Annonciation, je crois, comme Robert en parle aussi dans l'émotion européenne, justement, qui parle de l'Annonciation comme d'un viol ou le moment où le verbe entre dans la Vierge.
Rétraction.
Donc là, à travers le Cantique des Cantiques, je pense que ce serait peut-être plus cette subversion de l'Annonciation à ce moment-là. Mais on devrait réfléchir plus avant à cette réponse.
Oui. J'ai deux remarques. La première, vous avez parlé au début de votre exposé du retour à la nature, la transgression chez Sartre comme retour à la nature. Or, Bataille dans l'érotisme dit de la transgression, c'était incestueuse, qu'elle est toujours une Aufhebung, et qu'elle est une levée de l'interdit, mais qui conserve aussi l'interdit. Et il dit, c'est peut-être en note bas de page, il n'y a rien de plus naïf que de croire que la transgression est un retour à la nature. Je ne sais pas comment ça s'articule avec ça, mais chez Bataille, le retour à la nature est...
Ben, c'est un fantasme.
Oui.
On n'y revient jamais. On écrit, on est en culture, on est en communication. De Bataille, on peut citer des choses d'un côté de l'autre. On peut aussi citer le passage où il dit « L'interdit est là pour être transgressé. »
Oui.
Mais c'est pour être réétabli en tant qu'interdit.
Dans sa levée, il est toujours conservé. Mm-hmm. Mais deuxième remarque, et c'est vraiment intéressant que vous souleviez la place de la femme chez Aquin et Bataille, parce que c'est vrai que dans plusieurs passages, Georges Bataille, dans un cadre sacrificiel, va faire de la femme la chose sacrifiée. Et elle est, au fond, la médiation à travers laquelle le sacrificateur entre, accède à l'intimité. Elle a souvent le statut d'une chose, la femme. C'est une voie d'accès par laquelle le sacrificateur, lui, peut... mais en même temps, elle est à la fois cette chose qui permet d'accéder à l'intimité, mais aussi la femme est éminemment sacrée en elle-même.
Mais dans quel texte, quelle scène
Dans la théorie de la religion, il dit il y a vraiment un parallèle, c'est explicite, c'est mot pour mot entre la femme dans la relation sexuelle et le sacrifice de l'animal. Et donc, c'est intéressant de renverser un peu de faire la femme aussi une figure intéressante en elle-même, qui n'est pas juste une sorte de un moyen.
C'est-à-dire, je me suis attardé à la logique des récits. Hein. Je me suis efforcé de ne pas avoir recours au texte de Bataille, au texte théorique de Bataille, le moins possible, même si ça communique, évidemment. Mais selon la logique des récits, c'est vraiment la jouissance féminine qui domine la scène de la représentation, à mon sens.
Juste une petite remarque, si on trouve bien le bon là. Pierre, il prend la peine de dire il n'y a jamais eu d'inceste, j'ai jamais touché à ma mère. Et ça revient, c'est une sorte de métalangage. Hein. Pierre parle du tout de cette relation-là. Mais curieusement, comme vous venez de le dire, l'interdit chez Bataille, c'est central. Là. Mais je me demande juste où se situe dans la logique fatalienne? Pourquoi expliquer ça chez la taille? Alors que tout est permis, on se regarde l'histoire de l'œil, et tout à coup, là, on dirait qu'il prend un recul. Jamais, ça n'aurait pas été possible. C'est date ma lecture. Mais il reste que on serait perdu ou il y a quelque chose d'absolument. Ça touche vraiment l'impossible. Je ne sais pas si c'est partout pareil chez Lacan, chez les batailles, parce que ça fait trop longtemps que j'ai travaillé ça. Je ne me rappelle pas avoir travaillé ça, l'inceste, autour de la sublimation, tout ça, mais évidemment, il n'y en avait pas. Mais cette partie-là m'a toujours intriguée. Parce que me semble que ce n'est pas commun, ça ne revient pas ailleurs. Ce besoin
d'interroger,
ce besoin de justifier.
Que l'inceste n'est pas commis, en fait. Ça tourne autour de l'inceste tout le temps, mais il n'est pas commis comme tel l'inceste. Ouais.
Ben, c'est-à-dire, ça, c'est un problème de génétique, là, vraiment. La question de la réalisation de l'inceste dans ma mère.
En fait, il y a Léa dans le milieu, puis il fait l'amour avec Léa.
Réa.
Alors que c'est sa mère, comme vous disiez tout à l'heure, qui regarde dans les yeux.
C'est-à-dire qu'il y a une version, l'avant-dernière version du manuscrit, qui, elle, est la plus explicite, et c'est cette version-là du manuscrit qui tend vers une réalisation littérale de l'inceste. Hein. C'est le passage que j'ai cité. Donc, il enfonce ici tes doigts, et ce que tu y plongeras tout à l'heure, laisse-moi le tenir dans ma main. C'est le passage le plus explicite. Mais la réécriture finale, ce qui est l'état d'environ 90% du manuscrit, au début de ça, il dit jusqu'où ils sont allés, c'est un baiser, et suite à ça, la mère a décidé de se suicider. Donc ce serait limité au baiser. Et tout indique que si Bataille avait complété la réécriture du manuscrit, il aurait probablement effacé ces traces-là d'une réalisation.
C'est le bouquin de Amano que tu as dû lire.
Non, malheureusement.
Amano, le spécialiste japonais.
J'ai pas lu son bouquin, j'ai lu des articles de lui, mais...
C'est publié, ça...
Oui, bon, je...
C'est quand même énigmatique, je parlais ce matin, c'est son rapport avec sa propre mère, enfin, je rappelais Ginette Debray, vous situez Ginette Debray-Jeunette?
Non.
C'est la femme de Jeunette, le théoriste, le poéticien, qui a travaillé du point de vue analytique d'ailleurs, sur les manuscrits, sur les errata dans les manuscrits. Et comme Flaubert qui écrit « J'ai tué mon père et mon père ». Il voulait dire « J'ai tué mon père et ma mère ».
Ah, oui.
Flaubert écrit « J'ai tué mon
père ».
C'est terrible. J'ai tué mon père. Et Bataille, par exemple, j'ai découvert dans un des manuscrits de Bataille, écrit à propos de l'impossible, enfin la haine de la poésie, il est question de l'instant de crapaud des conceptions. Bonjour. Vous voyez déjà l'image. Mais dans le manuscrit, il a écrit l'instant de crapaud de ma conception. Il a barré ma et il a mis des. C'est hallucinant. La manière dont il imaginait son propre père. Parce que chez Bataille, quand même, quelque part, ça. C'est quand même l'image du père qui est derrière.
D'ailleurs,
sa stratégie. Rappelez-vous l'affaire de l'Express, quand vous vous en souvenez, quand il a fait des aveux à Madeleine Chapsal. Vous la connaissez, enfin, où ma mère est devenue folle à cause de. Et puis, le frère qui lit ça, qui est médecin à Bayonne, qui lui écrit et qui lui dit ce que tu as dit, tu n'as pas le droit de le dire, c'est faux. Tu as dit des choses affreuses. Tout en disant, moi seul, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est ça. Et Bataille de répond, je ne l'ai pas dit. Il a répondu. Et Madeleine Chapsal, que j'avais eu, m'a dit, il me l'a dit. Alors, et Bataille de dire, non, je n'ai pas dit ça. Vous voyez, c'est parce que cette histoire de. En vous écoutant les états de ma mère, effectivement, parce qu'au fond, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il faudrait étendre Bataille sur le divan.
Oui, bah, il l'a été, mais...
Il l'a été, mais c'est
ça. Il en est avec Corel,
mais nous,
et puis c'est pareil, tout ce qui touche cet abîme qu'est leur propre sexualité, enfin, qu'est-ce qu'Aquin a contre l'homosexualité comme Bataille. Et par un endroit donné, des tapettes du boulevard, machin, le mot est fort, quand même.
Entre une mémoire.
Hein, des tapettes... Et Bataille, puisque on vous l'a donné le bouquin.
Ça, c'est ancré dans le langage des années 60 aussi. C'est pas nécessairement péjoratif à cette époque-là. Ça l'était moins à l'époque.
Je pense quand même qu'il faut aussi inverser les signes. Oui. Les batailles, par exemple, c'est dans le trou de mémoire où on condamne le lesbianisme.
Oui, oui.
Non, je suis une lesbienne, je suis donc la plus affreuse des femmes, etc. Mais chez Aquin, il faut comme inverser les signes et dire être lesbienne, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est ça qu'il faut entendre. Ouais. Hein? Mais j'ai aimé que tu rappelles en début de communication la très belle citation de Sade.
Ah, hein? Oui, c'est-à-dire sur que... les romans.
Pardon?
Sur les romans, idée sur les romans.
C'est oui, pas... c'est ça. C'est-à-dire que l'enfant doit prendre la mère dès sa naissance. Hein?
L'écrivain, dans son
temps. Okay? En naissant, on prend sa mère, c'est-à-dire qu'on la prend sexuellement. La chose la plus sacrée, c'est la mère. On le sait tous, notre maman. Hein? Et donc, on va la transgresser là, tout de suite. Et c'est ça l'œuvre d'un écrivain. D'un écrivain comme Joyce, je pourrais rappeler, hein, Joyce qui voulait devenir l'ennemi de son peuple.
Ouais.
Et donc, foutre sa mère, c'est devenir l'ennemi de sa maman. Et...
C'est la mort.
Pardon?
C'est un lien avec la mort.
Oui, c'est vrai.
Parce que
oui.
Avoir sa mère, c'est retourner dans le sein de la mère.
Oui, et ça, c'est... Et
ça, motif chez Aquin, retourner dans le sein de maman.
Oui.
Hein, l'aimant qui devient le ventre maternel, hein. Non? Mm-hmm. Non, c'est quand même étonnant, ça aussi.
Bah, il y a aussi la scène dans Histoire de l'œil où le narrateur suce le sein de Simone en regardant sa mère du coin de l'œil. Ouais. C'est quand même assez aussi.
On pourrait même l'écrire autrement. L'histoire de la transsubstantiation, elle est aussi un marqueur au Québec. Mm-hmm. Et c'est la limite de partage entre protestants et catholiques.
Oui, oui. Mm-hmm.
Et le mot transsubstantiation, moi j'ai lu j'ai cité le catéchisme québécois au moment où il l'a écrit. Et on nous dit effectivement, le corps, et c'est très simple et c'est très clair, le corps devient le pain et le vin, ne reste le pain et le vin qu'en apparence, et il devient réellement le corps et le sang du Christ. Mais au Québec, face à le coup de patte qu'il donne à la First Church, moi ça m'a amusé ça, l'église anglicane ou la Official Church, comme il dit, la limite de partage est là, puisque pour les anglicans, il n'y a pas de transsubstantiation.
J'aimerais juste revenir.
Et encore moins pour les presbytériens, où ça devient un pur symbole spirituel d'union des chrétiens entre eux. Mmh. Il n'y a pas de changement des substances. Vous voyez ce que je veux dire?
Mmh. Ouais.
Et c'est pas rien au Québec non plus. Enfin, ça, c'est le côté que tu as juste évoqué à la fin, qu'on a éludé dans cette journée. Il faudrait refaire un colloque à Aquin pour. Même oui, parce que pour la politisation du sexe, quoi. Hein, c'est quand même, c'est ça aussi, c'est avec cet autre éros qui apparaît d'ailleurs, qui est l'éros positif, faire l'amour la nuit de la Saint-Jean, c'est défier l'adversaire. Il y a un autre éros quand même, très minoritaire, mais il est frappant, non?
Enfin, bon, c'est un symbolique,
hein?
Oui, c'est un symbolique, oui.
C'est un autre, il apparaît aussi au début quand il dit... l'idée de la mort, il faut jouir de la vie. Enfin, ça, c'est le carpe diem d'Horace, oui, et puis tout l'épicurisme. Mais vraiment, plus cette journée passe, je suis persuadé qu'Aquin est un grand écrivain.
Une dernière question.
Je voudrais ajouter une autre petite note à cette question, donc, de l'enfant qui prend la mère en naissant. C'est précisément ce que Hubert Aquin fait avec la littérature canadienne-française ou québécoise, comme on veut. C'est-à-dire que Hubert Aquin est un écrivain qui détruit la littérature nationale qu'on appelle québécoise, et en la détruisant, il la réalise.
Ouais.
C'est étonnant là, comme geste. Hein.
C'est très Artaud aussi. Moron, c'est ça. C'est le mort. C'est
Artaud.
C'est très Artaudien dans le mort-né, justement.
Mm-hmm. Oui.
Voilà. Heureusement qu'on a eu Aquin.
Oui. Ben oui. Ouais. Sans ça, on serait pris avec une littérature simplement nationale.
Ouais.
J'ai un retour à ça quand même.
Juan Hébert Kamouraska.
Peut-être un petit 5 minutes, juste pour le temps de s'éventer un petit peu, parce qu'on a des communications denses.
Oui,
c'est bon. C'est ça.
Ça roule.
Oui.
OK. Bon, donc, ma présentation est divisée en trois parties. Donc il y a une première partie, disons, d'introduction sur Nietzsche. La deuxième partie, c'est Aquin et Nietzsche. donc à un lecteur de Nietzsche. Là, je vais me pencher sur un texte qui est peu connu. C'est un texte radiophonique que Aquin a réalisé en 1964 pour l'émission Philosophe et penseur, et qui a été transmis sur les fréquences de Radio-Canada au mois de mai 1964, et qui était consacré justement à Nietzsche. Et donc là, je vais me pencher sur ce texte-là. Le texte était... il est conservé, je pense qu'il y a le tapuscrit qui est conservé au service des archives de l'UQAM, mais depuis 2013, il est disponible en revue, parce que vous l'avez publié, toi et François, toi et François Hervé, dans Québec Studies, n'est-ce pas? Cool. La troisième partie, c'est bon, c'est Bataille à Quint. Non, c'est Bataille et Nietzsche, pardon. Et donc là, je me penchais sur le bouquin que Bataille a écrit en 44, qui a été publié en 45, il l'avait écrit à l'occasion du centième anniversaire de la mort, non, de la naissance de Nietzsche, qui s'appelle Sur Nietzsche, Volonté de chance. Mon texte est très écrit, alors donc je vais lire, je vais essayer parfois de me détacher un peu pour faciliter, disons, le rapport avec nous. Bon. Donc, en 1964, un petit gars de 23 ans, Bob Dylan, se met à chanter « Times, they are a-changing ». Les temps sont en train de changer. Et tel un grand visionnaire, il nous annonce ceci. Eh bien voilà, je vous le dis, les eaux commencent à monter, bientôt elles vont déborder, partout ce sera le déluge. Alors, si vous ne voulez pas vous noyer, si vous ne voulez pas être submergé par la houle dévastatrice, arrêtez de vous chercher un abri. De toute façon, c'est inutile. Sans plus tarder, tranchez dans le vif. Commencez à nager énergiquement. À la brasse, du crawl, du papillon, peu importe. Faites ce que bon vous semble, mais surtout nagez. Je pensais à cette chanson il y a quelques jours pendant que je me préparais pour la rencontre d'aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, au fond, toute l'œuvre de Nietzsche est placée sous le signe du déluge ou du raz-de-marée psychique auquel fait allusion Bob Dylan. En quelque sorte, elle peut être lue comme la transcription ou comme le protocole d'un éveil spontané de l'inconscient, d'une activation sauvage, presque barbare, d'arrière-plan spirituel insondable. On pourrait parler également d'inondation intérieure, pour filer la métaphore. Et je crois que c'est pour ça que Aquin et Bataille s'intéressent autant à cette œuvre. Ils ont vécu eux aussi des expériences intimes hors normes, sans commune mesure, à la fois destructrices et vivifiantes. Et tous les deux sont attirés par le même fantasme dangereux qui agitait Nietzsche, le fantasme d'une plénitude de vie à conquérir, dans la voie de la catastrophe personnelle, de la perte de soi, de la plongée dans la nuit noire nyctalope, je cite Aquin. Tous les deux aspirent à la brûlure, comme la phalène se jette dans la flamme aveuglante. Mais revenons à Nietzsche. Nul doute que l'esprit de Nietzsche est semblable à un passoir, si l'on est de faille, constamment troué, envahi, attaqué par des prédateurs inconnus, anonymes, au profil indéfini, qui se manifestent sous forme de migraines, insomnies, pensées obsessives, problèmes de digestion, constipation, sinusite. La vieille citerne est fissurée, je cite, s'exclame-t-il dans le premier livre de la volonté de puissance. Et un peu plus loin, les intensités de mes nerfs me font frissonner. Je cite, ma digue, sécrète de défense organique, a été emportée au loin par un fleuve incru. Désormais, il n'y a plus de protection. C'est ça. C'est exactement ça. Nietzsche est très clair là-dessus. Désormais, il n'y a plus de protection. Et ce principe s'applique aussi à nous tous. Et qu'est-ce que cela signifie au juste? Eh bien, cela signifie que désormais, nous sommes sans défense. Nous sommes totalement exposés aux actions éclairs d'une tribu de visiteurs toniens qui perturbent notre sommeil, provoquent le burn-out, nourrissent nos angoisses, communiquent avec nous par les ruptures et les catastrophes psychiques. Cela signifie que ce qui devrait rester en dehors pénètre à l'intérieur. Et c'est toujours une surprise violente. Un état dans lequel on se retrouve désarmé, démuni devant quelque chose de plus fort, mettant la maison sans dessus, dessous, nous plongeant dans le désordre et la discontinuité. Et rien, absolument rien, pour endiguer ce courant disruptif. Rien pour endiguer ce flot d'inquiétude, de vertige et de monomanie qui bruissent autour de notre tête, nuit et jour, jour et nuit, heure après heure, jusqu'à ce qu'elle s'en fasse presque éclater les tempes. Plus de refuge sécuritaire, plus d'asile apaisant, plus de sédatif, d'analgésique et de clôture pour moutons en détresse. Tel est le sous-entendu implicite de Nietzsche. Dieu est mort, les formes culturelles, religieuses, sociales que la tradition nous a transmises et qui ont régi notre existence pendant des millénaires se sont dévitalisées. Elles ont perdu le charme, le pouvoir de captation, la capacité d'ensorceler, séduire, envoûter, puis enrober et mailloter, telles des camisoles de force contraignantes, les périlleuses silhouettes issues du royaume invisible. Fini les pompeux costumes brodés tricotés par l'histoire. Désormais, les ombres défendent les agrafes et déchirent les anciens accoutrements. Elles se libèrent, explosent, prolifèrent, se confondent avec la vie et avec son roulis de sensations, contretemps, d'incartades, de peines, d'allégresses, de difficultés, de douleurs, de chutes et rechutes, niant catégoriquement tout ce qui est achevé, cristallisé, fini, consistant et formel. Times, they are age-changing. Quelque chose arrive qui n'était pas prévu. Quelque chose se met à craquer dans les monumentales architectures de l'esprit moderne. Et une multitude de trous et de fissures difficiles à localiser commence à déverser sur les hommes une vie clandestine infiniment frétillante et sournoise. C'est comme une apparition au très sublime, rare, révélée à l'improviste. Presque un acte de compassion ou alors la manifestation d'un code pneumatique secret, astucieux, insoupçonné. Cette vie clandestine, spontanée, fuyante, que désire-t-elle au juste ? C'est pas compliqué, nous dit Nietzsche. Elle ne demande qu'une seule chose, qu'on lui résiste pas, qu'on ne freine pas ses élans, ses explosions démentielles, qu'on n'oublie jamais de la nourrir ou de s'entretenir avec elle par l'acte rituel de la lecture, de l'écriture ou par le simple fait de raconter des histoires. La parole poétique, quoi. C'est par là qu'il faut passer, car elle seule permet de dire ou de faire entendre ce que le langage d'école ou la langue de bois de la vie quotidienne ne dit pas ou ne fait pas entendre. Elle seule procure un exutoire adéquat aux énergies intensives qui se tremoussent dans nos nerfs et nos viscères. Et je crois que c'est cet aspect de la pensée de Nietzsche qui a tant fasciné Alain de Bataille. Nietzsche nous rappelle que la littérature n'est pas un simple divertissement. Elle n'est pas non plus un instrument de service à exploiter à des fins politiques ou culturelles, lorsqu'il s'agit de construire une identité ou une communauté, ou lorsqu'il s'agit de célébrer les idoles du collectif, non. La littérature a ce site particulier, qu'elle est un pont jeté vers un autre ordre de choses, un ordre qui est incompatible avec celui dans lequel se déroule notre existence ordinaire, et qui en est même la négation la plus radicale. Là où la société ne songe qu'à se refermer sur elle-même et sur ses propres valeurs stérilisantes et crétinisantes, bien-être, éducation, réussite personnelle, l'écrivain s'emploie à tisser de nouveaux liens avec l'invisible. Car il sait que l'enfer, c'est la vie, lorsque plus aucune porte ne s'ouvre sur le monde de l'autre côté et que l'on doit rester planté ici dans un désert qui ne cesse de croître, un désert désespérant, où le sang s'éteint comme la flamme faute de combustible, et où, par-dessus le marché, on est livré aux attaques de tous les démons que peut abriter l'âme humaine. L'homme n'est pas une créature qui puisse se satisfaire de confort, de devoir, de responsabilité. S'il n'a pas d'autres horizons que celui de la routine, s'il perd le contact avec la vie plus haute et plus élevée qu'il porte en lui-même, il sombre dans le dégoût, s'abîme dans la hargne et achève sa chute par la violence. C'est pour ça qu'on écrit, explique Nietzsche, pour vaincre l'omniprésente asphyxie, pour s'abandonner à une chose innommable qui bondit plus haut que les intérêts quotidiens et qui projette son ombre folle par-delà les limites de la personnalité sociale. La littérature est le lieu où l'on arrête de se subir. On lâche prise, on se laisse tomber. C'est une brèche par laquelle on se faufile dans la ferveur inquiète qui vibre sous couvercle de l'existence. Je crois que c'est là le grand enseignement de Nietzsche. En tout cas, je crois que c'est là le grand enseignement dont s'inspire Bataille et Hacquin. Ça, c'était la première partie. Vous voyez, donc c'est très écrit, mais malheureusement, il est sorti comme ça le texte. Enfin, je peux rien y faire.
Je te sens défendre devant ton texte.
C'est ça, je te sens défendre, exactement.
La foi de son écriture.
J'étais envahi, en fait. Ok. Donc la deuxième partie, c'est Hacquin et Nietzsche. Donc, en 62, Hacquin se fait confier par Gilbert Picard. Cette partie est divisée en trois encore. Donc, la première partie, c'est donc la mise en contexte de son texte radiophonique consacré à Nietzsche. La deuxième partie, je fais un peu résumé du texte, l'interprétation que Hacquin fait de Nietzsche. La troisième partie, la manière dont Hacquin utilise son texte et Nietzsche, la pensée de Nietzsche, pour critiquer son époque. Okay, donc, 1962, Hacquin se fait confier par Gilbert Picard la réalisation d'un cycle radiophonique sur la tradition monothéiste et sur ses apôtres, ses initiés, ses mystiques. Le résultat est remarquable. 8 documentaires qui parcourent par bon rapide 30 siècles de civilisation d'Ancien Testament jusqu'à l'existentialisme, en passant par l'islam, l'intuitionnisme, la psychanalyse, etc. Hacquin reconstitue grosso modo le roman secret de la pensée occidentale, un roman qui n'abonde pas un personnage, mais qui se concentre plutôt sur les grandes figures. L'auteur s'intéresse d'abord à Moïse, à Saint-Paul, à Mahomet et à Saint-Augustin. Ensuite, il saute par-dessus 15 siècles d'histoire de la philosophie. Il se porte au cœur de la modernité, présente à son public le portrait intellectuel de Nietzsche, Freud, Bergson et Sartre. La symétrie de la structure est évidente. 4 documentaires sont consacrés aux fondateurs de notre tradition et 4 autres documentaires aux prophètes de la crise, aux apôtres de la négativité qui, à l'âge le plus sombre, cherchent à se frayer une voie vers un nouveau commencement. Le présupposé implicite qui guide cet énorme travail de mise en perspective historique est incommode. Nous ne vivons plus au temps des grands encadrements collectifs, laisse entendre Aquin. Les formes religieuses, politiques, culturelles qui ont soutenu l'homme pendant tant de siècles, qui lui ont permis de se tenir au plus près de ses certitudes intérieures, ne fonctionnent plus pour nous. Nous sommes des tard venus. Nous arrivons après Nietzsche-Sartre, donc après la fin. Et les forces spirituelles que l'Occident croyait avoir verrouillées hermétiquement dans les cellules cryogéniques de ses idéaux, de ses valeurs, de ses institutions, eh bien aujourd'hui ces forces retournent à l'état libre. Elles reprennent la route, elles se déplacent ça et là, vont où ça leur chante, titubent autour des installations de la vie commune et enveloppent toutes choses dans le mystère de leur présence ineffable. Notre condition historique ou post-historique est donc très étrange, signale implicitement Aquin. Car bien sûr, nous piétinons dans un long, très long hiver monotone, citation. Nous sommes englués dans l'inanité et la banalité du quotidien, mais tout autour de nous grouille de puissances amorphes, infiniment agiles et traîtresses. Puissances qui se disputent l'emprise sur l'âme humaine et que nous échouons à nommer et à circonscrire car les mots justes et les gestes exacts nous font défaut. Bien sûr, nous avons conservé les textes sacrés, nous connaissons encore les liturgies, les invocations, les rituels, mais ces liturgies, ces invocations et ces rituels ne sont plus efficaces. Ils ont été chloroformés par des dizaines de siècles de philosophie rationalisante et de religiosité profane. C'est pour ça qu'à présent, et c'est là l'intuition géniale par laquelle, sur laquelle Aquin fait reposer son projet radiophonique, nous nous retrouvons dans une situation parallèle au commencement, c'est-à-dire à la période où tout était encore entremêlé et indéterminé, et où les hommes ne connaissaient pas les noms des forces nuisibles et bouleversantes qui sévissent dans le monde. Petite parenthèse, Hérodote, dans les histoires, précise que les orphiques n'avaient pas d'appellation ou de qualificatif pour désigner les épiphanies du divin, exactement comme nous. Chez eux, tout était divin, la réalité elle-même était divine, mais les mots pour dire le divin n'existaient pas. C'est avec la poésie d'Homère, donc beaucoup plus tard, que pour la première fois l'invisible s'incarne, acquiert de profils définis, naît, lumineux, singulier, reconnaissable, dans l'Iliade et l'Odyssée, les dieux de l'Olympe, les héros et tout ça. C'est donc avec Homère que se dégage l'aurore de la civilisation occidentale et que les êtres, les choses, commencent à se disposer dans l'ordre articulé du visible. Or, aujourd'hui, nous dit Aquin, nous sommes dans la phase antérieure à celle-là, dans une phase où tout est opaque, incertain, incalculable. Alors voilà, en mettant en parallèle l'expérience des fondateurs et celle des casseurs de fétiches, chacun annonce que nous sommes parvenus à un point de revirement de l'histoire. C'est comme si le temps avait fait retour à la case de départ, comme si, par des sentiers tortueux et secrets, il avait replongé dans le chaos primordial où ne subsiste rien d'autre qu'une masse dense, indistincte, visqueuse, d'énergie non dissociée. Et voilà le paradoxe souligné par Aquin. Désormais, nous pouvons nous considérer comme les contemporains de Moïse, mais aussi d'Homère, des Védas et des Orphiques. Et nous pouvons répéter leurs actes créateurs. C'est là le murmure imperceptible du petit traité de philosophie de l'histoire en 8 leçons qu'Aquin compose pour Radio-Canada. Un monde s'est écroulé. Celui des structures psychologiques produites par la pensée monothéiste, ou monotonothéiste, comme l'appelle Nietzsche. Et le tard venu de la post-histoire, restitué au vide de son existence, doit maintenant, je cite Aquin, se tenir loin de vieilles traces, renoncer à l'idéal absurde, mais rassurant d'un sens ou d'une finalité à bâtir historiquement. Il doit quitter le chemin des enveloppes sociales, ne plus participer à rien, surtout pas aux intérêts des autres hommes. Il lui faut plutôt revenir à la maison de l'âme, se mettre en quête de l'expérience primordiale des racines éternelles, sans s'échapper par la fente ou s'anesthésier à coups de sédatifs modernes. L'ironie d'Aquin ne cessera jamais de nous surprendre. Au moment même où au Québec, les antélos et les mandarins de la révolution culturelle s'emploient à dresser de nouvelles idoles et de nouvelles cloisons pour les êtres singuliers, en substituant aux dieux morts de la morale et de la théologie l'une ou l'autre de ces multiples doublures, la communauté, l'identité, la langue, l'éducation généralisée, le bien-être économique, les réformes politiques, etc. Aquin, indomptable dans ce refus, signale que tout cela ne sert plus à rien. Dieu a quitté le royaume de moules collectifs, désormais il s'est mis à agir de façon occulte, souterraine, il s'est éveillé dans chaque être singulier. L'homme a perdu la possibilité de vivre ses certitudes sur le plan des préceptes politiques, culturels et religieux. mais il continue quand même d'être guidé et alimenté par son inconscient, qui s'est divinisé et qui est devenu la valeur suprême. C'est pour ça que Aquin encourage ses auditeurs à ne pas se laisser distraire par les succès d'années et les analgésiques modernes, parce que désormais, il n'y a plus de place pour ça, plus de place pour les idéaux, ni pour ceux de l'Église, ni pour ceux de la société laïque. À présent, le mystère du renouveau et de la révolution, chaque être singulier le porte en lui-même, au plus profond de sa constitution interne, dans les frissons et les enchantements furtifs de la sensibilité. C'est donc l'individu qu'il convient de partir, et non pas du collectif. Aquin ausculte la culture de son temps, un médecin attentionné, et reconnaît en elle non le désir d'innover, mais plutôt celui de, je cite Aquin, reprendre la même chanson de mort. De ce, je cite Aquin, se tenir dans les vieilles traces. Le sens caché et le vrai front de la révolution culturelle québécoise est paradoxalement, selon Aquin, la volonté réactionnaire d'étayer ceux qui s'écroulent, de restaurer la pensée monothéiste, en troquant le dieu de la Bible avec la déesse de l'histoire et de la communauté nationale. Et cela au détriment d'individus et de son besoin de se libérer du placenta collectif. Donc ça, c'était la première partie. De la deuxième partie, maintenant, je passe à la description du texte du Nietzsche, du texte radiophonique. La rencontre avec Nietzsche a lieu à un moment délicat dans la vie d'Aquin. Nous sommes en 1964. En ces années, Aquin a comme seul souci, je cite le journal, sa vocation littéraire, la destinée d'écrivain qui se choisit. Il ressent l'exigence de l'œuvre, mais il ne parvient pas encore à lui donner une expression adéquate et satisfaisante. Quelque chose lui barre la voie, quelque chose tient à un échec ses énergies, comme si son esprit était distrait, peu réceptif, incapable de détourner le regard de la vie soi-disant active. Toutes les notes consignées dans le journal à cette époque sont une tentative de thématiser le blocage. Aquin joue à s'auto-analyser, à surprendre ses états d'âme, histoire de reconnaître l'entrave, la nommer, la liquider et désobstruer ainsi le passage vers l'élan créateur. Mais ce n'est pas ça qui lui arrive. Ce qui lui arrive, c'est plutôt le contraire. Aquin accumule de la frustration, il en accumule de plus en plus jusqu'à se charger d'angoisse, d'anxiété et de cafard comme une balle prête à exploser. Et puis là, Nietzsche lui tombe dessus. C'est un coup de chance. Ou la réponse immédiate à un terrible silencieux cri de désespoir. Les mots de Nietzsche se mettent à opérer sur l'imagination d'Aquin. Légère pression interne, des clics opportuns d'organes sensoriels engourdis, et voilà qu'enfin, sans plus hésiter, d'un seul bond, Aquin entre dans son univers romanesque. Nietzsche le débloque. C'est comme une purge. Non ? Deux semaines après la diffusion du documentaire, consacré au philosophe surhumain, Aquin prend congé de son entourage et passe à la clandestinité. Non sans envoyer au devoir une lettre flamboyante au temple messianique pour communiquer son projet. À partir de ce moment, il ne pensera plus qu'à s'offrir complètement à la littérature. Il se laissera guider et nourrir par les fantômes issus de sa psyché profonde. Comme Nietzsche, il situera son processus créateur dans la proximité de la plus dangereuse de la haine et du ressentiment envers la conscience du moi. Et tout comme Nietzsche, il subira le contre-coup tragique de ses efforts audacieux pour s'accomplir, se réaliser, réaliser son individualité intégrale. Je passe à l'interprétation que Aquin fait de Nietzsche dans le texte radiophonique. Nietzsche n'est certainement pas un philosophe dans le sens strict du mot, nous dit Aquin. Il est surtout un poète, un psychologue et par-dessus tout un mystique. Il appartient à la lignée des visionnaires européens, sa voix est la même que celle que l'on retrouve chez Maître Eckhart, Blake ou Dostoïevski. Grand rebelle, allergique aux dogmes et à l'esprit de système, pressé d'obéir exclusivement à la loi de l'intériorité. Nietzsche aussi est un grand rebelle, explique Aquin. C'est un solitaire habité par la scission, perpétuellement en quête de vérités sanglantes, expérimentales, liées, je cite, à l'action réalisatrice, à l'excès schizoïde, au ravissement extatique. Le savoir discursif ne l'intéresse pas, nous dit l'auteur. Avec le savoir discursif, on ne chute jamais dans le trou. On ne touche jamais le fond du baril. Et Nietzsche veut précisément toucher le fond du baril. Il veut prendre un risque au bord du précipice. Ne vivre que de sa propre débâcle, quoi. Tel est son souci monomaniaque. Nietzsche a consacré son existence entière à la pratique de la possession schizoïde. Peut-être n'y a-t-il encore jamais eu de vivant qui se soit penché au bord du gouffre de la folie avec autant de sang-froid et de clarté, avec autant de trépidation et à la fois de sérénité, nous dit Aquin. L'ivresse envahissait sa conscience continuellement en y apportant quelque chose de lointain, d'occulte, d'indéchiffrable. Et Nietzsche ne songeait qu'à s'abandonner à une rêverie lancinante, être submergé puis emporté au loin, à une distance sidérale de tout et de tous. que quelqu'un ou quelque chose vient le libérer de lui-même, le prendre avec violence, et transformer en porte-parole de l'au-delà, en véhicule sidéré de toutes ces forces solennelles et anonymes qui parfois visitent l'homme, lui font connaître des vertiges inattendus et imposent une défaite humiliante à ses idoles les plus révérées, Dieu, la raison, savoir, le bonheur. Nietzsche a indubitablement ressenti comme une amputation atroce la censure de l'irrationnel exercée d'abord par le christianisme, puis par la culture laïque et bourgeoise qui s'affirmait de plus en plus à son époque. C'est ce qui l'a poussé à se défaire de toutes les attaches et à n'être qu'un voyageur sur terre, je cite, un inlassable errant engagé dans la recherche de son vrai moi. Son œuvre, je cite, est le réveil du négatif, des choses indicibles qui se déroulent dans l'ombre. Elle se meut, je cite, cuirassé armé pour le combat, dans les régions de la sagesse sauvage, dans ces zones obscures du pathos que la tradition monothéiste, par peur de contradiction et de destruction, a régulièrement oblitéré et même démonisé. Peu à peu, il s'est détaché de tout, des amis, des devoirs institutionnels, des idéaux du présent, et enfoncé dans son propre gouffre, en situation de schizophrénie par rapport au réel, écrit Aquin, avec à peu près autant de patience dans ses veines qu'il y a d'amour dans l'œil du condor, il a cédé les commandes au dieu sans visage, inconnu et volatile, qui s'était activé en lui, qui s'était mis à danser en lui après qu'il eut proclamé la mort du dieu de la morale. C'est pourquoi, précise Aquin, ce penseur qui s'est présenté sur scène comme l'ennemi de la religion ne s'éloigne jamais tout à fait de la religion, dont il tient sans cesse à prouver qu'elle est un non-sens. Il s'éloigne encore moins du dieu dont la mort constitue la clé de voûte de sa pensée. Dans son attitude fondamentale, Nietzsche demeure religieux, à en croire Aquin, à ceci près que le dieu auquel il déclare son dévouement inconditionnel n'est pas une plaquette accrochée au mur, ni un trépied pour les paralytiques ou un bouclier pour les anxieux. C'est plutôt un démon du midi, dangereusement agressif, une terrible apparition d'énergie psychologique autonome, indomptable, à mesure de balayer au loin la zone calme où règne l'arbitraire subjectif. Cette puissance menaçante se dressant un jour devant Nietzsche sous les traits totalement inattendus de Zarathustra. C'était le mois d'août 1881. Rappelle Aquin, je cite, « S'il, Maria, 6000 pieds au-dessus de la mer, et bien plus haut encore au-dessus de toutes les choses humaines. Soudain, Zarathustra m'assaillit. Alors le 1 devint 2. » Sans se douter de la menace, Nietzsche se livre inéluctablement à son démon. Animé par le sentiment d'une grandeur surhumaine, il ne pense qu'à intensifier la vie du divin dont il est devenu le support d'incarnation enthousiaste. L'intensifier au détriment de sa santé, jusqu'à se charger comme une de ces machines prêtes à exploser. Après l'agnostic et les pères du désert, personne n'était jamais allé aussi loin dans le domaine de la technique expérimentale, la littérature comme stratégie d'échec. Manœuvre auto-sacrificielle consistant à se transmuer en poupée mécanique, en automate, en baudruche, en mystérieux aérolithe actionné par l'innommable, ou gonflé par des souffleurs delphiques, ou encore par les puissances qui se tortillent dans les réseaux enchevêtrés de la physiologie humaine. Tout un drôle d'exercice, semblable à un rite bestial, ou à une onde sonore bien plus large et déchirante que celle qui fut transcrite en état de somnambulisme par Edouard Munch. Beaucoup de crottins, certes, mais parfois ce crottin le nez le mange avec délice. Et lorsque ça arrive, lorsque l'énergie spirituelle peut enfin dégorger sa vigueur impétueuse et que rien ne fait plus obstruction, alors un renversement total a lieu. Tout devient légèreté, allégresse, spontanéité, accent vertigineux de béatitude. La création cesse d'être un travail, écrit Aquin, paraphrasant Nietzsche, elle devient, je cite, simplement un laisser-faire ou l'intervention d'une intelligence supérieure et impersonnelle, je cite, l'on entend sans chercher à entendre, l'on prend sans demander qui donne, les pensées surgissent comme un éclair et il n'y a aucune hésitation dans la forme. Tout se passe essentiellement en dehors de la volonté, dans un débordement de joie et avec le sentiment d'une liberté, d'une puissance et d'une lucidité inouïe. C'est là la grandeur de Nietzsche, conclut Aquin. Sa capacité de tenir en respect, par une sorte de mimétisme hypocrite, les entités du grand bas. Sa capacité de se laisser posséder par elles, de leur confier ses organes, ses nerfs, ses entrailles, et puis de prendre du plaisir à observer et à transcrire leurs jolis zigzags schizoïdes, tout en veillant à ne pas flancher, à ne pas faire naufrage. Nietzsche ne nous apporte pas un don, une doctrine, comme le pensent les pédagogues, mais une technique expérimentale, et aussi une atmosphère, précise Aquin, l'atmosphère infiniment pure et pénétrée de passion d'un esprit démoniaque qui se décharge en orage et catastrophe. C'était la deuxième partie de la deuxième partie. Si c'est trop long, interrompez-moi, parce que mon texte est un peu long, donc... troisième partie. La manière dont Akin sélectionne met en récit les extraits et les idées de Nietzsche, et puis les combine avec certains détails d'ordre biographique, est particulièrement significative. Nous sommes en 1964, en pleine modernisation culturelle. C'est l'époque de la Révolution. Partout souffle un vent de liberté inédite et de renouveau. Partout, le plurinationaliste monte au cœur des Canadiens français. À ce moment-là, il n'y a qu'une seule, une seule question qui se pose, avant tout autre et derrière tout autre, la question de l'identité. Mais il y a aussi la question du pays. Il s'agit de construire une nation, et puis il faut également unifier le peuple québécois sur la scène de la culture. Et voilà que Akin, avec son documentaire consacré à Nietzsche, se met à jouer le rôle du dissident, du provocateur, du dynamitéro-subversif. Dissimulé derrière le masque du philosophe surhumain, il invite chacun à chercher sa route par ses propres moyens, loin des devises sociales et politiques. Il conseille à ses contemporains de ne pas croire aux idéaux fantaisistes dont l'esprit moderne se sert pour encadrer l'existence, la soustraire au désarroi, au néant, au sentiment du manque. Je cite « Une dichotomie analogue à celle de FM et AM radio me confine au déphasage, m'impose de faire bande à part et de conserver mes distances par rapport aux rêveries du présent », écrira Akin plus tard dans Point de fuite. Et à ce propos, Yvan Rivard a dit une chose qui me semble très juste. Je cite « La pensée d'Akin est commandée par la période historique et renforce la partie faible de la dialectique qui lui est donnée de vivre. » Il s'agit là d'une vérité que Rivard énonce avec précision et exactitude. Akin veille à ce que l'intérêt du « nous », du collectif, ne passe pas devant l'intérêt du soi, du singulier. Il encourage l'individu à ne pas escamoter le combat véritable, qu'elle consiste non à se cramponner aux autres et à leurs idéaux, mais à faire vivre cette partie de lui-même, cette vaste portion de sa personnalité, qu'il n'a pas l'habitude de visiter, dont il a peut-être peur, et qui pourtant contient le mystère de la Renaissance. Notre moi est une ruche bourdonnante. Si on le scrute, on y distingue un petit peuple d'ombre au profil indéfini. Présence qui linguiste au fond d'une obscurité impénétrable. Elle murmure sans arrêt et nous apostrophe. Elle désire être évoquée, accueillie sur la page, et même dans la vie de tous. Mais pour cela, il faut des symboles, des noms, des mythes, des récits, et une société qui se bétonne derrière des préoccupations d'ordre exclusivement politique, économique ou pédagogique, qui n'offre aucun débouché aux passions et aux instincts souverains de l'homme, qui ne dispose plus de moyens rituels ou esthétiques pour établir un contact avec le monde intérieur, qui troque sa réceptivité à l'invisible avec la quête d'un sens d'une existence à produire historiquement, eh bien une telle société se condamne nécessairement à la stagnation, à la fatigue, à l'épuisement vital et en définitive à l'auto-anéantissement. C'est là un théorème infaillible, et c'est également le présupposé implicite qui guide Akin dans l'écriture de tout son Nietzsche. En 1961, dans un court essai intitulé « Qui mange du curé en meurt », Akin écrit, je cite, « Il y a en l'homme une fonction religieuse qui lui est essentielle, une faculté spéciale soustraite au contrôle de l'ego, susceptible de transformer l'existence en un embrasement perpétuel. Certes, la raison la tient pour suspecte, et cela à cause de sa nature ésotérique et dissolvante. Pourtant, cette fonction religieuse est tout aussi indispensable à l'homme que l'amour », écrit Akin. La refouler ou la nier, précise-t-il, signifie se condamner à une dérive sinistre à travers un désert de pierres desséchées. Or, c'est là, pour Akin, l'erreur impardonnable de la révolution culturelle québécoise, ainsi que de toute autre révolution culturelle. Révolution culturelle québécoise attache l'homme à des idoles telles la communauté, le progrès, l'histoire, le savoir, la nation, et lui fait croire que l'essentiel consiste à tisser des liens communautaires en fonction de la langue, du territoire, de l'identité, de l'éducation, de ressources économiques, alors que rien de tout cela n'est vraiment très important. Ce qui compte au premier chef, ce sont les significations qui nous permettent de dépasser notre quotidien. Ce qui compte, c'est de ne jamais se laisser distraire du problème véritable, notre rapport avec le monde de l'autre côté, avec les puissances invisibles qui veillent quelque part là-bas, au plus profond de notre constitution interne, qui demande à ce qu'on ne les oublie pas et à qu'on leur offre une oreille attentive. Bon, là, je finis à Akin, je passe à Bataille. Alors, Bataille, je ne suis pas un spécialiste, ok, donc, du coup, je ne sais pas trop. Je me suis concentré sur donc son Nietzsche, Volonté de chance, et surtout sur la question du supplice, la question du pal, qui est assez aberrant comme supplice quand même. Alors, donc, là aussi, j'ai divisé le texte en trois parties. mais elles sont plus courtes que celles consacrées à Cain. Essayons de l'énoncer de façon claire, une fois pour toutes. Cette chose-là, celle qui survient un jour dans votre vie, dans notre vie, par hasard ou par jeu, cette chose qui s'insinue traîtreusement en nous, se met à faire du dérapage dans nos entrailles, et puis nous étrangle et nous angoisse, sous une pression d'étau, cette chose-là, à laquelle nous ne pouvons pas résister, et qui enfonce brutalement la porte que nous nous employons à maintenir bien fermée. Cette chose, dont nous ne voulons rien savoir, bien sûr, et à laquelle nous essayons de résister, car nous nous haïssons nous-mêmes, et que nous sommes occupés à nous piétiner nous-mêmes, à tuer l'homme ou la femme en nous, histoire de ne plus être confrontés à la mystérieuse géométrie de l'impossible et de l'inattendu, eh bien, cette chose, il n'existe aucune raison impérative de l'appeler supplice, perte de soi, torture. On peut tout aussi bien l'appeler viréel. On peut l'appeler également Gottheit, déité ou divinité, comme Maître Eckhart. Ou encore flèche du désir, comme Nietzsche dans son Zarathustra. On peut l'appeler aussi chance, ou excès, ou surabondance créatrice. Enfin, peu importe. Cette chose n'a pas de nom pour toujours. Un chêne n'est pas moins chêne parce qu'on l'appelle oak ou roble ou quercia. Cela ne change rien à sa croissance, à la poussée de sa sève. Cela ne change rien non plus à la chute de ses feuilles ou à la venue de l'automne. Alors je propose ceci, faisons comme bataille. Appelons cela, cette chose, si vous le voulez bien, pendant un moment, appelons l'objet de cette présentation, cette petite recherche, pâle. C'est le terme que Bataille utilise dans son Nietzsche. Et il le décrit comme un rire si vif que la pensée se dissipe. La clownerie même. Il part du supplice... Un épanouissement fondé sur un effondrement. D'un coup, on chute dans l'inanité de l'être. Ce sont les définitions que Bataille donne de... Alors, faisons comme si ce mot que Bataille tient, justement sans doute de la sacrifice, tout ça, pouvait désigner une forme d'existence plus haute, un état de transport ou de grâce dans lequel se produit une sorte de décrochage. Et cela de façon subite. D'un coup, vous êtes happé, soulevé. C'est ça le pal. Soudain, une intensification inouïe du sentiment de la vie. Fini les activités, les obligations et les objectifs. Quelque chose se libère en vous. D'un coup, d'un seul, vous êtes catapulté dehors, loin de vos soucis, de vos blocages, de vos habitudes, et vous vous retrouvez brusquement dans une réalité beaucoup plus large, dans un lieu qui ne ressemble à aucun lieu. Comme ça, sans prévenir. Une survenue, ou alors un rapt. Et aussitôt le soulagement. L'immense soulagement de se savoir tirer d'affaire. C'était la première partie. Deuxième partie. Nous sommes en 1944. Dehors, l'absurde fait le tour de l'orbicule terrestre, ignorant les frontières. Et Bataille, on voit à l'œuvre, silencieux, immobile, entièrement absorbé par l'écriture de son livre consacré à Nietzsche. De quoi parle ce bouquin au juste? Mais surtout, pourquoi un bouquin sur Nietzsche en 1944? Certainement pas pour interpréter l'œuvre du philosophe surhumain, et pas non plus pour parler de la guerre. Bataille se met à écrire parce qu'il ne peut plus tenir en place. Ce livre, il l'a mortellement médité d'avance, mortellement vécu d'avance, et cela pendant 20 ans. C'est Bataille lui-même qui le dit dans la préface. Au moment où il compose et assemble son Nietzsche, en regroupant par ailleurs de fragments d'écriture griffonnés à différentes époques et issus de tiroirs disparates, eh bien, semble-t-il, il est toujours torturé par une formidable tension, ébranlé par un terrible cataclysme psychique. Je cite la préface. Ce qui m'oblige à écrire, dit Bataille, est la crainte de devenir fou. J'ai subi une aspiration ardente, douloureuse, qui dure en moi comme un désir inassouvi. Ma tension est proche de celle des martyrs ou des saints, et ce délire entraîne un déséquilibre organique qui me prive de repos. Je cherche à traduire tout cela en action. Mais aucune ne répond à ma fièvre. Toutes les femmes semblent ternes et menteuses. Fin de la citation. Dehors, la destruction devient monde. Et Bataille a l'impression de se rapprocher de l'écroulement. Il lui semble ne plus pouvoir continuer, ne plus pouvoir survivre à cette perpétuelle hypertrophie de l'âme, à cette invasion tumultueuse de secousses que l'esprit créateur déverse dans ses veines et sur sa pauvre tête. La glace qu'il a portée jusque-là est devenue trop mince, et il ne peut plus s'empêcher de sentir le souffle chaud et dévastateur du vent du dégel. Quelque chose enfle en lui, quelque chose de trop démesuré pour être contenu dans des dimensions terrestres. Un je ne sais quoi d'effroyable assombri coupe son monde de la lumière, met ses nerfs à vif, l'initiant au mystère d'une angoisse sans borne. C'est comme un soulèvement total de son être. Une insurrection créatrice, un complot contre tout ce qui est mort, momifié, contre tout ce qui sent le moisi et l'insensé. C'est de là que vient son besoin de se dépenser dans l'écriture. C'est là que vient également son désir de parler de Nietzsche, c'est-à-dire de l'homme qui, à l'époque moderne, a été le premier expérimenté, comme Bataille le dit lui-même, et a canalisé dans un style viscéral, foncièrement physiologique et météorologique, en tout cas sensible au moindre pressentiment de cataclysme, cette, je cite, « aspiration extrême », cette brûlure incommensurable. La lecture et la relecture ininterrompue de Nietzsche suscitent chez Bataille l'irruption d'une écriture intime, acéphale, décousue, frôlant l'incohérence. Une écriture qui n'a rien à voir avec le commentaire érudit ou académique. Bataille se met simplement à gribouiller et à empiler un tas de notes personnelles, de réflexions sur l'époque, d'illumination ou d'intuition soudaine. Et chaque fois, l'élément déclencheur, le pal, et la méditation de tel ou tel autre extrait de Nietzsche. Bataille enregistre à peu près tout, les sensations, les fines altérations d'humeur, les variations de sang, de niveau de conscience, d'état d'esprit, les détails du paysage intérieur ou extérieur, les promenades avec une femme nommée K, les pressentiments subits, les crises d'anxiété et d'angoisse, les obsessions et les désirs. Sur toute chose, il est le témoin, et cela sans aucune raison particulière. Simplement comme ça, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Je cite, « J'écris ces notes incapables d'autre chose. » Il l'avait déjà déclaré dans un texte de 1939 intitulé « Coupable ». Mais le même principe s'applique aussi bien à son Nietzsche. L'œuvre du philosophe surhumain est pour Bataille l'instrument d'une nouvelle et difficile découverte de soi-même. Une sorte de miroir où il peut longtemps se contempler, contempler les zones obscures et quasiment inaccessibles de son intimité. Bref, Nietzsche est pour Bataille une véritable mine, une véritable source d'inspiration qui lui permet peu à peu d'accorder un libre passage à ce qu'il habite et à ce qu'il agite. À l'aide de ses penseurs, il apprend à se délivrer, à offrir un exutoire à sa nervosité implacable. Il apprend à transcrire fidèlement les vociférations et les clameurs de présence démoniaque qui parasitent son âme. Après tant d'années d'allaitement, la joie de pouvoir enfin vider une ancienne controverse, en acceptant que la tension psychique brise les chaînes de la rage et parvient à une décharge salutaire. La parole poétique a ce site particulier, nous dit Bataille, qu'elle opère la restitution de ceux dont l'activité nous prive. Elle assouvit notre irrépressible besoin d'un contact avec la souveraineté du hors-langue. Elle permet à l'ivresse, à la folie et au tourment intérieur de déferler sur les territoires de la pensée, ressentir, enregistrer, nommer. C'est à ça que Bataille n'arrêtera plus de se consacrer tout au long de sa vie comme à une manie joyeuse et énervante, dans la tentative sans doute vaine, mais nécessaire, de tarir son amertume, d'extirper ses ulcères, de débloquer peu à peu le démon néfaste et stagnant dans ses poumons. Je finis la deuxième partie, troisième partie, j'ai presque fini. L'univers où Bataille situe sa prose littéraire rappelle celui de certains fables de Mille et une nuits. On y assiste à l'éternelle brisure de vase et à la ronde infatigable des étincelles de lumière. Des démons aériens, à la fois bons et méchants, surgissent sans trêve devant nous pour nous ouvrir des portes et à la fois nous préparer des embûches. C'est comme si une grâce absurde et ténébreuse ne cessait de s'évader de placards, de sous-sol, de s'infiltrer ça et là, faire le tour de la chambre à coucher, fouiller sous les meubles, sous les canapés, dans toutes les interstices de l'appartement, afin de parfumer les choses de mystère pour ensuite les engloutir lentement, comme une brume indéterminée, opaque et toute-puissante. L'univers de son Nietzsche est déchiré par une invasion perpétuelle. Il est inondé par un déluge tambourinant que les doutes et les menues incohérences de notre vie quotidienne font pressentir, au moins endormis d'entre nous. C'est ça qui intéresse au premier chef Bataille, cette horreur énigmatique qui s'abat en fraude sur le toit, puis dégouline le long des gouttières, murmure dans les crevasses et déborde avec tumultueuse élégance des mille cavités régulières que les siècles ont creusées dans les pavés et dans les pierres catastrophées de l'Occident. Naturellement, cela arrive n'importe où, partout, en tout lieu, même ici, et surtout à n'importe quel moment, même maintenant. Dehors, c'est la nuit, mais il y a dans l'air chaud comme un orage qui s'annonce, comme un amour qui brûle de se déclarer. Puis à l'improviste, la foudre tombe du ciel, sourde et aveugle, semblable au pâle, au hasard. Elle annihile les réverbères dont l'éclat ne cessait de ravir toutes nos heures, jusqu'à la dernière. C'est un signe, c'est une absurde et incompréhensible invitation au voyage, un voyage qui est avant tout mental et qui est également la plus grande énigme de l'existence. Allons-y alors. On se lève, sans demander pourquoi, sans chercher à prévoir, à interpréter, à comptabiliser, sans faire intervenir la voix frileuse et démoniaque de la responsabilité. Juste quitter, parce que le temps est venu d'oublier quantité de choses qui nous sont chères, tout en sachant que la vérité à propos de ce soir-là, celle où le pâle a désarticulé le temps, on la découvrira peut-être jamais, même pas au terme de plusieurs années. Mais ce n'est pas pour donner un sens à sa vie qu'on prend la route. C'est parce que la route est un enchantement perpétuel grâce auquel on échappe à la vie et au sens. Non, excusez-moi, c'était très écrit. J'ai essayé de...
Ah, c'est très bien. Introduction à la prose et à la pensée de Philippot. Oui, d'accord. Donc, réagissez. Oui?
Time is out of joint.
Ouais. Tu aussi.
À Keynes, surtout, semblait cerner ces conditions-là, les conditions de cette expérience-là dont tu as parlé, à partir de la mort de Dieu. Est-ce que cette citation-là de Shakespeare nous permettrait de penser cette expérience-là hors des conditions historiques, c'est-à-dire comme une forme de continuité dans l'histoire, qu'il y aurait toujours un moment où le time serait out of joint, et que cette expérience-là, que ce serait une condition de l'expérience, au fond, hein, partout à travers l'histoire?
Cela, je pense que c'est nécessaire, justement, pour que la vie se renouvelle constamment. Au fond, c'est comme Borges qui disait, l'homme n'a pas besoin de siège doré, il a juste besoin qu'on lui accorde le don de créer continuellement. Donc il faut que puisse y avoir des moments où time is out of joint, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se toucher soi-même, et on peut, genre, en allant là où généralement on n'a pas envie de voir, d'aller, parce qu'il y a des choses qui sont troublantes, ben, c'est à ce moment-là en fait, qu'une nouvelle création est impossible. Et donc, c'est une vérité ahistorique, je veux dire, c'est pas juste... Et je pense que tout écrivain, au fond, a vécu des expériences comme ça. Enfin, c'est nécessaire.
Une question, puis un commentaire. J'avais oublié dans le texte de Bataille sur Nietzsche, K, la femme K. Et c'est écrit jusqu'à?
C'est jusqu'à, c'est ça. Ça. Je faisais le lien avec la prochaine étape. J'essaie de fouiller un peu pour voir de quoi, qui était cas, mais comme je ne connais pas,
peut-être je connais un peu Bataille. Dans les notes d'Aquin, où apparemment il cite Bataille plus qu'on le croit, ça vaudrait la peine d'aller voir quand même, si jamais. Bon. Mais l'autre question, c'est que quand même, tu as discuté relativement peu des concepts nietzschéens, mais à la fin de Neige Noire, quand le narrateur jette enfin le masque et qu'on apprend que c'est je, alors que tout depuis le début, on pense, à part Nicolas, bien sûr, que c'est écrit au « il », évidemment, Rob Grier fait la même chose, mais Rob Grier, c'est un procédé formel, tout simplement. Chacun, c'est beaucoup plus grave que ça, je pense, quand que ce « je » là apparaît. Il parle de la palingénésie, qui est un terme pour dire l'éternel retour aussi. Et, en même temps, Quint a toujours été réfractaire, employer le terme d'éternel retour. Mais en même temps, palingénésie fait signe à ça, mais sans que ça soit clair, sans que ce soit nommé, sans que Nietzsche soit évoqué.
Mais ça, je crois que c'est un terme de Kierkegaard, dans la répétition.
Oh oui, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire la même chose que l'éternel retour.
Non, c'est exactement la même chose.
Donc, j'aimerais bien savoir si tu...
Je crois que c'est une vie libérée de la finalité, non? C'est une vie dans laquelle on est désactivé, au fond, la volonté d'organiser, de contrôler. On se laisse surprendre.
C'est une forme de renaissance aussi, tandis que l'éternel retour suppose le retour du même, là, c'est-à-dire tandis que la palingénésie, il peut avoir une forme de différence, c'est-à-dire c'est renaître d'une autre manière à travers autre chose. Fait que c'est, à mon sens, c'est pas exactement la même chose, mais effectivement,
c'est ça. Je pense que c'est plus en termes, justement.
Ben, c'est ça.
Il est sorti à ce moment-là, il fait un appel.
Ça fait partie du vocabulaire du canon catholique. Hein.
Mm-hmm. Oui, c'est plus dans ce cadre-là, mais il faudrait voir aussi, parce qu'on avait parlé de la répétition beaucoup, on a parlé beaucoup de la répétition comme étant peut-être quelque chose de commun à la fois à Bataille et à Quint, et dans le texte qu'on a traduit faussement par la répétition de Kierkegaard, en fait c'est la reprise, on devrait dire, Kierkegaard dit justement une reprise c'est impossible. Quand on fait tout, on met tout en scène pour reprendre quelque chose, on se rend compte que la répétition échoue en quelque sorte. Ça serait peut-être intéressant de continuer sur ce filon-là. Et en même temps, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est parce qu'il reste quand même que
dans cette figure paléogénésie, comme tu dis, ça serait peut-être un renouveau, une renaissance, mais c'est le dernier roman achevé d'Aquin, hein, qui se boucle ainsi, et quand il entreprend Aubombre, ben Aubombre ne va pas. Mm-hmm. En même temps, c'était quelque chose de paradoxal, d'ironique, de tragique là-dedans, que ce qui semblait annoncer à la fin de Neige Noire un autre cycle, une reprise, une renaissance, en réalité, non. Ce jeu a beau naître à la fin du texte, mais il meurt aussitôt.
Chez Kierkegaard, il y a aussi l'idée du souvenir en avant, qui est quand même bizarre, hein, parce qu'un souvenir est nécessairement quelque chose qui renvoie au passé. Mais chez Kierkegaard, c'est ce en quoi il serait le père de l'existentialisme, si on veut, le souvenir en avant. Donc.
Une sorte de mémoire de l'avenir, comme si... Comme s'il y avait aussi une coïncidence parfois, ben justement, la question de la coïncidence entre les hasards de la vie et la nécessité, au fond. Parfois, les coïncidences qui nous arrivent font allusion à une nécessité qui est inscrite dans notre destinée, au fond. Ce serait une sorte de mémoire d'avant.
C'est une hypothèse aussi, peut-être, sur. Dans le documentaire que Aquin a fait sur Nietzsche, il s'intéresse beaucoup à la volonté de puissance, beaucoup moins à la question de l'éternel retour. Mais pourquoi est-ce que Bataille, lui, en reprenant Nietzsche, change ça par volonté de chance? C'est le sous-titre, quand même. C'est un concept tout à fait bataillien. Hein, je ne sais pas si tu veux élaborer un petit peu là-dessus, parce que...
D'abord, en fait, c'est quelque chose de paradoxal, d'oxymorique, parce qu'on ne peut pas vouloir la chance. La chance, c'est précisément ce qui tombe dessus, c'est l'occasion, en fait, c'est le kairos des Grecs. Sauf que la volonté à laquelle Bataille fait référence, ce n'est pas la volonté liée au moi, mais c'est la volonté de puissance. Et c'est la volonté au sens d'une énergie qui bouillonne derrière, au fond, notre personnalité consciente, la personnalité à laquelle nous nous identifions dans notre vie de la veille. Et c'est cette volonté-là qui est une volonté impersonnelle, qui n'est même pas une volonté, parce qu'on ne sait pas s'il y a une intention là-dedans, ou si c'est juste du chaos, du hasard, qui active la chance, au fond. Donc la volonté de chance, c'est quelque chose d'impersonnel qui circule dans notre vie, et qui produit des interruptions, des hasards, des discontinuités, enfin, et qui nous sort, au fond, de notre fonctionnement automatique, quoi. D'ailleurs, en fait, par rapport à ça aussi, presque tous les romans d'Aquin, surtout Neige Noire, sont placés sous le signe d'une espèce de lumière aveuglante qui envahit constamment le monde. Et les protagonistes essayent de se protéger contre cette lumière-là, parce que... Mais il n'y a pas de protection, justement. Elle est partout.
Est-ce qu'on pourrait dire que cette chance-là peut être une malchance?
Cette chance-là peut être une malchance, bien sûr. Le face, le néfaste, de latin, oui. C'est...
Oui, Bataille le soulève.
Quand on raconte le pâle...
Le pâle, c'est pas...
Très chanceux.
C'est pas drôle.
Quand on parle de votre vivant, c'est pas très chanceux.
C'est pas drôle.
Ouais. Justement, le terme volonté de chance, c'est là un moment où j'ai écrit le nom de Bataille dans la marge du texte de...
Ah ouais?
Volonté de chance, c'est l'élan vital. C'est...
Ouais.
C'est... comment dire, dans les chemins de bifurcation constante.
Exact.
Très, très platonien.
Oui, c'est bon. Ouais, tout à fait.
D'autres questions, commentaires?
Bon, on prend une autre petite deux minutes, je pense. Hein? Mm-hmm. Quand même, c'est... Merci pour cette...